Hey, bienvenue à l'émission Connaître la suite. Ce soir, on parle de commerce international, on va parler de taux d'imposition des entreprises et on reçoit les gens de RLQ pour parler de l'événement RLQ Montréal. Donc, c'est un rendez-vous. On se retrouve dans quelques minutes. Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire pour votre dose de liberté et de responsabilité individuelle. Ici Steve Martineau, accompagné de Danny. Bonne semaine Danny, ça a
bonsoir,
bien été?
Très bien été, toi?
Très bien, et je t'annonce qu'on a une émission chargée ce soir. Après avoir connu un vendredi passé un peu plus tranquille, ce soir on est bien occupé, on a de nombreux invités. Et j'en profite pour inviter les gens à peut-être nous joindre par le Twitter. On l'a pas assez mentionné, je pense, la semaine passée. Les gens m'ont envoyé quelques courriels. C'est sûr qu'avec Twitter, on est limité dans les caractères. Donc, malheureusement, ce n'est pas connaître la suite, mais plutôt connaître suite. Donc, pour ceux qui voudraient nous suivre, s'il y a moyen de le faire en nous ajoutant, connaître suite. Et d'ailleurs, on vous invite toujours sur le site internet de connaîtrelasuite.com à vous inscrire à la liste de distribution parce que, ben, l'avantage, c'est que 24 heures à l'avance, et je tiens mes engagements jusqu'à présent, 24 heures à l'avance, on vous informe des sujets qu'on va discuter et effectivement des invités qu'on va avoir à l'émission. Exactement. Parlant d'invités, le commerce international existe depuis des siècles, hein, si on le sait. D'ailleurs, la forte croissance des pays industrialisés est due en grande partie au commerce international. Donc, ce soir, pour parler de l'impact du commerce international sur nos vies, on a le plaisir de s'entretenir avec Germain Belzile, qui est directeur de la recherche à l'Institut économique de Montréal. Bonsoir, Monsieur Belzile.
Bonsoir.
Ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Content de vous avoir parmi nous.
Ben, merci beaucoup de l'invitation, je suis très content moi aussi.
Avant de parler de commerce international, tout d'abord, quelle est la meilleure définition du commerce international?
Mon Dieu, le commerce international, c'est tout simplement les échanges que les citoyens font, non pas entre voisins et amis, mais entre citoyens de pays différents.
Et quels sont les principaux acteurs? Parce qu'on a toujours l'impression peut-être que le commerce international, c'est l'affaire des gouvernements ou des grandes entreprises, mais le commerce international, comme on le dit, ça existe depuis fort longtemps et c'est ouvert aux petites et moyennes entreprises.
Ah, tout à fait. Écoutez, dans le commerce international, on parle aussi du commerce de services et puis l'item le plus important du commerce de services, c'est le tourisme. Alors, c'est pas juste les entreprises, hein, c'est aussi vous et moi. Si vous allez en République dominicaine cet hiver, ça entre dans le commerce international du Canada comme une importation.
Et quels sont les impacts, justement? Parce que on le dit, le commerce international, et qu'on n'a qu'à penser à Rome, on a qu'à penser évidemment à l'Amérique, qui a été découvert en grande partie à cause du commerce international. Le commerce international, c'est quelque chose qui est là depuis fort longtemps. Et est-ce que le commerce international tel qu'on le connaît aujourd'hui fonctionne avec les mêmes règles ou les mêmes principes que celui qu'on pouvait connaître au siècle précédent?
Écoutez, probablement, ça vaut peut-être la peine de noter que le commerce international, c'est encore bien plus ancien que ça. Vous vous souvenez peut-être, il y a au moins une dizaine d'années, on a trouvé un homme dans un glacier dans les Alpes entre l'Italie et puis l'Autriche.
Oui, effectivement.
On l'a appelé l'homme de glace, justement. Et puis, on a découvert sur lui toutes sortes de trucs, des pointes de flèches, des coquillages, des bijoux qui venaient de milliers de kilomètres de distance. Et puis, on a daté ce bonhomme-là de 5300 ans avant aujourd'hui. Donc, à un endroit aussi, mon Dieu, peu peuplé, puis c'était pas une grande civilisation, la civilisation européenne, il y a 5300 ans. Les gens vivaient ils vivaient plus dans des cavernes, mais pas loin, là. Mais il y a 5300 ans en Europe, les gens faisaient du commerce sur des milliers de distance, de kilomètres de distance. Donc, c'est quelque chose de très ancien.
Est-ce qu'on peut dire que le commerce est à la base même du capitalisme ou c'est de réduire un peu, c'est un peu réducteur de le dire ainsi?
Mais écoutez, ce qui est normal pour les humains, c'est de faire des échanges et de coopérer. D'ailleurs, c'est un des traits les plus importants de la nature humaine. Il y a pas d'humains sur la planète, il n'y a pas de civilisation où les gens vivent tout seuls puis se débrouillent tout seuls. On est habitué de coopérer puis d'échanger. Moi, je ne me nourris pas moi-même. Je m'attends à ce que quelqu'un d'autre produise la nourriture et puis moi, je vais faire des échanges pour obtenir cette nourriture-là. Puis moi, je vais faire autre chose en échange. Alors, le commerce international, c'est juste une façon de faire des échanges avec des gens qui ont un avantage sur nous, qui sont mieux capables de produire certaines choses que nous. Alors, il n'y a pas de différence de nature, en fait, entre faire un échange avec un Chinois puis faire un échange avec quelqu'un qui reste au bout de la rue chez vous. C'est la même chose.
Peu importe.
C'est les gouvernements qui ont créé une distinction parce que ils ont empêché ce commerce-là de toutes sortes de façons pendant longtemps. Et puis, ces barrières au commerce diminuent maintenant depuis une soixantaine d'années peut-être de façon importante. Mais il n'y a pas de différence de nature. Hein. Échanger avec vous ou échanger avec quelqu'un que je connais pas et qui parle une autre langue, c'est la même chose.
Qu'il soit issu d'un système communiste ou capitaliste, c'est les mêmes bases d'échange.
Oh, tout à fait. Il n'y a pas de distinction. Puis partout, la raison pour laquelle on fait des échanges puis on spécialise, c'est parce que c'est pas une bonne idée d'essayer de tout produire soi-même. Vous pourriez produire toute votre nourriture puis faire vos vêtements vous-même, mais votre niveau de vie serait vraiment faible si vous faisiez ça. Hein. Si vous passez tout votre temps à essayer de vous nourrir puis de vous vêtir puis tout le reste, alors vous êtes mieux de vous spécialiser dans quelque chose et puis de devenir très bon dans cette production-là et puis échanger pour obtenir ce que vous voulez. En fait, au Québec, on produit des grandes quantités de riz et puis mais de façon indirecte. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on produit du sirop d'érable. Et puis on l'échange, puis avec les revenus de nos échanges, on peut acheter du riz d'un pays tropical, par exemple.
Effectivement. Oui. Danny, tu as une question, vas-y.
C'est ça, vous parliez des barrières que les gouvernements peuvent mettre par rapport au commerce international. Avez-vous des exemples de ce qui se faisait peut-être plus auparavant, mais qui se fait un petit peu moins maintenant, comme barrières?
Oui, ben écoutez, ce qu'on appelle les tarifs douaniers. Les tarifs douaniers, c'est des taxes qu'on établit sur les importations, que les gouvernements établissent sur les importations. Alors, c'est des taxes comme des taxes de vente, là, mais c'est juste sur les produits importés. C'était beaucoup plus élevé dans les années passées, c'était beaucoup plus élevé. Ça l'est moins parce qu'on a signé des accords internationaux dans lesquels on s'est engagé en même temps que les autres pays à baisser ces taxes-là. Puis on l'a fait. Ce qui fait que présentement, les tarifs douaniers au Canada sont à peu près 5% de ce qu'ils étaient à leur maximum dans les années 30.
Donc, est-ce qu'on doit ça justement à ces accords-là, comme l'ALENA qu'on connaît ici en Amérique du Nord?
Oui, en bonne partie. Marquez bien, on aurait pu le faire sans accord. Hein.
Okay.
Hong Kong a éliminé tous ses tarifs douaniers unilatéralement dans les années 60. Parce que c'est mauvais des tarifs douaniers pour nous. Hein. Ça nous fait payer plus cher les biens, ça réduit notre niveau de vie, ça nous empêche de nous spécialiser autant qu'on le pourrait. Puis les gens d'Hong Kong l'ont bien compris, puis ils ont décidé, ben tiens, nous autres, pas parce que... Tu sais, mettre un tarif douanier, c'est un peu comme se donner un coup de marteau sur la tête. C'est pas une bien bonne idée, hein. On se nuit à nous-mêmes. Mais attendre de baisser nos tarifs que les autres fassent la même chose, c'est comme dire aux autres, ben là, je vais me donner un coup de marteau sur la tête si tu continues à t'en donner un, toi.
Puis en parlant de...
C'est pas une bien bonne idée.
Non, définitivement. Puis est-ce qu'on peut dire que, bon, sans donner de crédit aux Américains, qu'ils l'ont compris assez rapidement, ça, parce que on peut dire que le commerce international est au cœur même de leur économie?
Oui, tout à fait. Ben, en fait, les Américains ont été... vous savez, la dépression des années 30, ça a été en bonne partie prolongée puis empirée par le fait que tous les pays ont érigé des grosses barrières au commerce à cause de la dépression des années 30. Puis ça, c'est ça qui a causé une dépression. Puis les Américains ont compris ça, puis ce qui fait que durant la Deuxième Guerre mondiale, quand ils ont vu qu'ils étaient en train de gagner, ils ont commencé à planifier l'après-guerre, et puis il y a eu une grosse rencontre à Bretton Woods aux États-Unis, et puis à cette rencontre-là, on a planifié, entre autres, une baisse mondiale des tarifs douaniers partout. Ça a donné les accords du GATT en premier, puis ensuite l'OMC éventuellement 50 ans plus tard.
Puis nous, le Canada, là-dedans, si on essaie de se positionner justement par rapport peut-être à des chefs de file comme les Américains, est-ce qu'on est bien situé en termes de commerce international ou on a un gouvernement qui intervient trop justement puis qui essaie de protéger? Parce que on le sait aujourd'hui, vous parliez tantôt de taxes, on sait que les véhicules automobiles au Canada sont taxés, donc il y a encore beaucoup de produits et services. Est-ce qu'on s'en tire bien par rapport à nos politiques et nos principes directeurs?
Bien, au Canada, on est un pays qui est pas mal ouvert, si on se compare, en tout cas, là. On exporte et on importe à peu près un tiers de notre PIB. Ça a déjà été plus élevé que ça, par exemple. En 2001, là, c'était aux alentours de 40 % du PIB. Mais avec les mesures de sécurité suite au 11 septembre, ça a rendu le commerce beaucoup plus difficile entre les pays, puis particulièrement avec les États-Unis, ce qui fait que ça a baissé. Ce pourcentage-là. Mais tout de même, on fait beaucoup de commerce. En fait, le commerce bilatéral le plus important sur la planète, donc le commerce entre deux pays, c'est-à-dire on additionne ce que le pays A envoie à B puis ce que le pays B envoie à A, là, ben le commerce le plus important entre deux pays, c'est entre le Canada et les États-Unis, sur la planète.
Ah oui?
Oui, c'est pas
même incluant la Chine. L'Union européenne, même en incluant l'Union européenne avec l'Allemagne et les pays autour.
Oui, ben les Allemands exportent beaucoup, là, mais quand on regarde le commerce de l'Allemagne avec la France, puis la France avec l'Allemagne, c'est plus petit que le commerce entre les États-Unis et le Canada. C'est plus gros. Ça sera peut-être pas comme ça éternellement, avec la Chine qui grossit, entre autres, beaucoup, là. Mais pour le moment, en tout cas, on a un commerce important, puis surtout avec les États-Unis. Au Québec, maintenant, c'est un petit peu plus petit. Au Québec... on exporte à peu près, un quart de notre production peut-être, puis on importe un petit peu plus que ça. Et puis, nos exportations, c'est à peu près 75 % vers les États-Unis, puis nos importations, c'est à peu près un tiers en provenance des États-Unis.
Et quelle est la fragilité, justement, d'une province comme la nôtre ou d'un plus petit pays? Parce que je lisais là certains articles qui émettaient certains dangers vis-à-vis le multilatéralisme, là. Donc, est-ce que nous, on est un peu, je dirais pas biaisé, mais étant donné notre démographie puis le volume qui est moins important, est-ce qu'on peut jouer à armes égales?
Mais écoutez, le commerce, c'est des échanges, hein? Et puis, il n'y a personne qui est désavantagé dans le commerce. Le commerce ne dépend pas du fait qu'on est meilleur qu'un autre ou moins bon qu'un autre de façon absolue. Puis ça, il faudrait que... Quasiment que je donne un cours là-dessus pour que ça soit compréhensible. Il faudrait parler davantage comparatif. C'est une question relative. Dès qu'on devient moins bon dans un secteur, on devient automatiquement meilleur dans d'autres secteurs. Puis c'est une idée complètement extraordinaire et géniale qui est comme 1 plus 1 égale à 2, mais il a fallu attendre David Ricardo il y a 200 ans pour le comprendre. C'est ce qu'on appelle le principe des avantages comparatifs. Donc, il n'y a aucune nation qui a jamais été ruinée sur la planète au cours de l'histoire par le commerce. C'est impossible.
Mais comment on peut expliquer à ce moment-là le raisonnement de certaines personnes qui ont énormément peur à des économies puis à des pays comme la Chine? Même il y a des gens qui ont peur des États-Unis qui sont des joueurs marquants au niveau du commerce international. Les gens, on les voit comme une menace?
Oui, bien écoutez, c'est le cas si vous êtes dans une industrie en particulier. Alors par exemple, je me souviens d'avoir donné un cours... à des gens d'affaires à HEC il y a quelques années, puis j'avais dans mes étudiants des gens qui étaient dans le fer. Donc, ils produisaient des produits de fer. Et puis, eux autres, ils n'étaient pas capables de faire face au prix chinois. Le prix chinois était tellement plus faible que le leur, là. Mais écoutez, ça, c'est un secteur dans lequel on n'est pas bon de façon relative face aux Chinois. Mais il y a plein de secteurs dans lesquels on est bon face aux Chinois. En fait, le commerce international, là, ça a pour impact ça a le même impact, dans le fond, que le changement technologique. Quand tu as du changement technologique, il y a des pertes d'emplois dans des secteurs, puis il y a des créations d'emplois dans d'autres secteurs, mais le commerce international, c'est la même chose. Ça crée des transformations dans notre économie. Puis de la même façon que c'est pas une mauvaise chose qu'il n'y ait plus maintenant de conducteurs de calèches et puis de maréchal ferrant, des milliers dans la province, parce qu'après tout, on est passé à autre chose, on est passé aux voitures, à d'autres choses, ben de la même façon, on fabrique plus autant de t-shirts qu'avant. On en fabrique plus de t-shirts en fait maintenant. Mais par contre, il y a plein de secteurs qui sont développés en informatique, puis etc. Dans les services partout. Et puis ça nous appauvrit pas, au contraire, ça nous amène à acheter moins cher des produits que d'autres ont de mieux faire que nous. Puis ça nous amène à nous spécialiser dans les domaines dans lesquels nous on est vraiment bons.
Puis est-ce que vous pensez qu'avec la culture qu'on a, je veux dire canadienne ou québécoise, là, parce qu'on le sait, on a des icônes en frais d'entrepreneurship, mais est-ce qu'on a les outils puis le mindset là pour justement aller comme ça sur les marchés internationaux puis être confiant par rapport à notre commerce international?
Bien, on a une proportion importante de PME au Québec par rapport à l'Ontario, par exemple. Et puis ça, c'est quelque chose qui rend les choses plus compliquées, disons. Parce que les petites entreprises sont souvent plus frileuses quand vient le temps de percer les marchés internationaux. Mais il y en a beaucoup qui le font, hein. Et puis c'est le prix à payer, hein. Si on veut avoir un niveau de vie élevé, il faut s'ouvrir. Et plus les pays sont fermés à l'échelle internationale, plus ils sont pauvres. C'est une corrélation absolument étroite. Tu sais, si on compare, par exemple, la Corée du Nord et la Corée du Sud, après tout, c'est en gros le même paysage, c'est la même race, c'est la même langue, c'est la même culture très ancienne, la culture coréenne. Puis il y a un pays qui est ultra pauvre, puis il y a un autre pays qui est vraiment pas mal riche. Puis la différence entre les deux, ben c'est le capitalisme, puis l'ouverture. La Corée du Sud est extrêmement ouverte, la Corée du Nord, c'est le pays le plus fermé de la planète.
Et comment... Mais comment on peut percevoir justement, parce qu'on a l'impression des fois que ces délégations-là à l'international sont appuyées systématiquement par des délégations appuyées par le gouvernement. Est-ce que c'est parce que on n'a pas au Québec ce mécanisme-là, cet automatisme-là auprès des entrepreneurs pour aller à l'international? On a l'impression que c'est toujours des délégations qui doivent être encadrées par un processus gouvernemental.
Écoutez, là, je vais vous donner une opinion personnelle. Là, j'ai vraiment l'impression que les délégations gouvernementales qui appuient les entrepreneurs, c'est avant tout une question politique. Les politiciens sont extrêmement contents de sortir d'ici puis de pas faire face aux journalistes avec tous les problèmes auxquels ils font face ici, entre autres les problèmes de corruption et tout le reste. Ils sont très contents d'aller se photographier dans un autre pays à côté d'un chef d'État. Et puis, en plus de ça, ben ils sont capables d'annoncer des signatures de contrats dans le voyage. Très souvent, ces contrats-là sont signés déjà avant le voyage, en passant. Ouais, ben évidemment, politiquement, c'est très bon pour eux autres. De la même façon que c'est très bon pour un politicien de couper un ruban pour inaugurer une usine que le gouvernement subventionnait avec notre argent, en passant. Mais c'est pas vraiment quelque chose d'important, c'est pas quelque chose de crucial. Le commerce international, c'est des échanges tout à fait normaux. Et puis, de la même façon que les entrepreneurs trouvent des acheteurs pour leurs produits sans que le gouvernement, leur tienne la main au niveau national, ben, de la même façon, on en trouverait aussi au niveau international.
Et par rapport justement à l'implication des gouvernements ou des délégations comme ça, est-ce que vous pensez que, parce qu'on semble toujours cibler les mêmes choses, on cible souvent la France, quelques délégations dans les pays asiatiques, parce qu'évidemment depuis quelques années, c'est là aussi où ce qui se brasse beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez qu'on cible les bonnes économies dans le monde, parce qu'il y a beaucoup de marchés émergents maintenant, le Brésil. Est-ce que vous pensez qu'on est assez diversifié ou on focus toujours sur les mêmes partenaires?
Ben, écoutez, vous savez, 75% de nos exportations vont vers les États-Unis, au Québec. À peu près 15% vers l'Europe. L'Asie, c'est quelque chose comme 5%. On a un avantage naturel à commercer avec les États-Unis parce qu'ils sont à côté de nous autres. C'est pour ça, d'ailleurs, que le Canada fait tant de commerce avec les États-Unis. C'est pas parce qu'on est si bon que ça, là, c'est parce qu'on est à côté des États-Unis, tout simplement. Alors, le marché qui est vraiment rentable pour nous, qui est intéressant pour nous, c'est le marché américain. Et c'est pour ça que c'est vraiment, vraiment important de s'assurer d'un accès au marché américain sans entrave. et en réduisant le plus possible les problèmes. Et ça, ça veut dire le moins de... Ça veut dire un accord de libre-échange. Ça, c'est vraiment crucial avec les États-Unis. Mais si on en a un, il n'y a pas de problème. Mais ça veut aussi dire un gouvernement qui est proactif pour s'assurer que le Congrès américain n'est pas en train de nous mettre des bâtons dans les roues dans le commerce. Puis le gouvernement canadien aussi, en passant. Ça veut aussi dire peut-être que l'idée de Stephen Harper de créer une zone de sécurité, par exemple, qui ferait que les biens pourraient être transportés beaucoup plus facilement à travers la frontière. C'est une chose qu'il faudrait qu'on examine de plus près. Vous savez, l'ALENA, ça a été fait en bonne partie, en tout cas l'accord de libre-échange canado-américain au départ, là, ça a été fait en bonne partie parce que les entreprises voulaient être capables de s'envoyer des deux côtés de la frontière des trucs. Les voitures canadiennes sont fabriquées avec des pièces américaines, les voitures américaines sont fabriquées avec des pièces canadiennes. Les entreprises gèrent leurs affaires avec des méthodes de gestion de stock juste à temps à la japonaise, c'est-à-dire que ils gardent pas des gros stocks. Puis quand ils ont besoin de pièces, ben ils appellent le fabricant de pièces puis ils disent j'ai besoin cet après-midi de tant de pièces.
Et effectivement,
ça, on en faisait beaucoup, on en fait beaucoup moins maintenant parce que à la frontière, les camions restent bloqués pendant une journée ou deux.
Ouais.
Et puis ça c'est quelque chose qui ça ce que si le gouvernement veut faire quelque chose là, il pourrait être pas mal plus actif de ce côté-là, s'assurer que les biens passent beaucoup plus facilement à la frontière.
Oui, parce que ce qu'on remarque aussi c'est qu'avec Obama qui est au pouvoir là, il y a beaucoup de mesures de protectionnisme qui ont été mis en place quand même là au niveau de certaines industries. Donc ça l'a fait mal aussi beaucoup au Canada. Puis je pense, et les mesures de sécurité n'ont pas aidé. Parce que, effectivement, pour avoir travaillé dans le coin de Windsor, là, où il y avait beaucoup d'échanges avec les domaines manufacturiers dans le domaine de l'automobile, je pense qu'au début des années 90, justement, au moment où on a mis en place l'ALENA, il y avait beaucoup, beaucoup d'échanges. Mais aujourd'hui, ça semble beaucoup être difficile, beaucoup plus difficile.
Ah oui, c'est beaucoup plus compliqué. Les formalités sont plus importantes, les délais sont beaucoup, beaucoup plus importants. Et puis c'est en bonne partie pour ça que le commerce a ralenti. Il faut dire aussi que le plan de relance d'Obama de l'année passée, ou il y a deux ans, c'est un plan de relance dans lequel on donnait beaucoup d'argent aux municipalités et aux États, mais on mettait des bâtons dans les roues en disant vous êtes obligé d'acheter, si vous faites des investissements dans les infrastructures avec cet argent-là, il faut absolument que ça soit de l'acier fabriqué aux États-Unis, puis du ciment fait aux États-Unis, puis tout le reste. Et ça allait complètement à l'encontre de l'esprit de l'ALENA. Et puis c'est vraiment... Et c'est pour ça, d'ailleurs, si on s'arrête au rôle du gouvernement canadien, le gouvernement canadien... Écoutez, les missions commerciales, c'est pas quelque chose de si important. Ce qui est vraiment beaucoup plus important, c'est être sûr qu'on a un accès à Obama, puis au Congrès, aux membres, puis pas juste à Obama, hein, mais aux gens qui dirigent les deux chambres du Congrès, pour s'assurer que quand ils font des lois, qu'ils pensent à notre relation commerciale extrêmement importante, qui est mutuellement bénéfique, hein, des deux côtés de la frontière. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été assez fait.
Oui, effectivement. Si on regarde du côté du commerce international des produits de l'agriculture, on sait que dans plusieurs pays, là, c'est très subventionné de ce côté-là, ou soit qu'il y a des quotas qui empêchent le transfert de certains produits agricoles là, d'une province à un autre ou à un pays à un autre. D'après vous, c'est quoi l'avenir de l'industrie agricole, justement, de ce côté-là, pour que ça soit plus libéré? Pensez-vous que ça va se libéraliser un petit peu plus dans l'avenir ou ça va rester comme ça?
Ben, je l'espère et je le crois finalement. Vous savez, on a de la gestion de l'offre, hein, les quotas de production de lait, tout le reste là. Et puis, ça fait que le lait le plus cher sur la planète il est au Canada. Puis le lait le plus cher au Canada il est au Québec.
Donc on est vraiment, les chanceux, on est les heureux élus.
On est les heureux élus, on est vraiment des champions mais dans quelque chose. Mais j'aimerais mieux qu'on soit champion dans autre chose. Là,
ouais.
Mais en tout cas. Mais et puis ça, ben comme il est cher le lait, ben on devrait en importer des États-Unis hein, où il est beaucoup moins cher. Mais on peut pas. En fait, le tarif douanier sur le beurre, vous pourrez aller vérifier ça. C'est très facile. Vous allez sur Douane et Accise Canada, puis tous les tarifs sont là. Et puis le tarif douanier sur le beurre, c'est à peu près 300%. Une taxe de 300%. Et puis, c'est pas compliqué, ce tarif-là, il est ajusté une fois de temps en temps, tout simplement pour s'assurer qu'on n'importe pas de lait, puis pas de beurre, puis rien de ça des États-Unis. Fait qu'ils mettent à un niveau, fait que ça vous donne une idée du prix du beurre international, hein, puis du lait, puis du reste. Puis ça, ben nos partenaires commerciaux sont pas très contents de ça, parce qu'ils disent, on baisse nous autres nos tarifs, puis vous les baissez aussi dans toutes sortes de secteurs, mais dans le secteur du laitier, par exemple, c'est quoi cette affaire-là d'avoir des tarifs douaniers de 300%? Et puis, je pense qu'ils ont raison. Et puis, on a l'air un peu fou quand on arrive dans des à l'OMC puis qu'on dit aux autres pays, ben baissez vos tarifs. Puis, les autres nous disent, ouais, puis vous autres, votre tarif sur le beurre de 300%. Moi, je pense que c'est appelé éventuellement à disparaître. Puis, si ça disparaît, ben c'est les quotas qui vont suivre. Puis, tant mieux. Parce que, vous savez, les quotas de production de lait, ça a été inventé en Australie dans les années 1920. Et puis, les Australiens, ils ont été assez intelligents pour s'en débarrasser. Il y a un peu plus de 10 ans maintenant.
Okay.
Et puis, les Néo-Zélandais ont fait la même chose. Puis, il y a à peu près juste au Canada qu'on a ces politiques-là maintenant de quotas. Et puis, ben tiens, juste pour vous donner une petite idée, moi, mon fils travaille aux États-Unis. Okay. Et puis, quand je reviens des États-Unis en voiture, je m'arrête à peu près tout le temps pour mettre du gaz sur la 87, juste avant d'entrer au Canada, évidemment, au Québec. Là.
Vous faites pas ça? Non, pas
vrai. Le gaz est vraiment moins cher. Et puis, mais je m'arrête aussi pour m'acheter du lait. Ça vous combien ça coûte un gallon de lait dans une station d'essence? Donc, c'est pas dans un hypermarché, là, tu sais, avec des bas prix. Là. Une station d'essence, 2,49 pour un gallon.
Oui. C'est...
Ici, c'est quoi? Je paye 4 piastres un 2 litres ici. Un 2 litres, c'est un demi-gallon à peu près.
Mais qu'à ce prix-là, il est au même prix que le gaz? au litre. C'est qui les grands gagnants et les grands perdants, justement, d'avoir des politiques de quotas et de subventions? Parce qu'aux États-Unis, on sait qu'on subventionne beaucoup l'agriculture et tout ça. Les gagnants, en bout de ligne, puis les perdants, là, c'est qui?
Ben, pour les quotas, pour les subventions à l'agriculture en général, c'est les agriculteurs qui sont les grands gagnants de ça. Mais pour les quotas, c'est plus bête encore. Les grands gagnants, ça a été la première génération quand on a créé les quotas dans les années 60.
Exact.
Ces gens-là, les producteurs agricoles, on leur a donné les quotas. On leur a dit, à partir de maintenant, il y a des quotas. Puis comme vous produisez déjà du lait, ben bingo, vous avez des quotas. Puis ces gens-là ont produit, grâce aux quotas, ils vendaient plus cher. Puis donc, ils ont fait pas mal d'argent au cours de leur production. Et puis à la fin, quand ils ont décidé de sortir, de prendre leur retraite, ben ils ont vendu leurs quotas. Un quota pour une ferme typique au Québec, c'est à peu près 45 vaches. Ça vaut 1,5 million. C'est que les gens, donc, qui ont pris leur retraite, ben, ils avaient obtenu gratuitement des quotas, puis ils ont vendu à ces prix-là. C'est qu'eux autres, c'est les grands gagnants. Mais les jeunes producteurs d'aujourd'hui, ils ne sont pas gagnants pantoute, parce que oui, ils vendent le lait plus cher qu'ailleurs sur la planète, mais avez-vous une petite idée de l'intérêt qu'ils payent à chaque mois sur leur emprunt d'1,5 million? Pour acheter le papier qu'on appelle un quota.
Ça, c'est quand ils passent à la banque. Parce que moi, j'ai deux amis très, très proches qui n'ont même pas pu acheter la ferme familiale à cause du prix du quota. C'est pas drôle, là.
Ah non, c'est pas drôle. Mais en fait, en général, là, le quota, qui est un bout de papier, il vaut plus cher que la ferme. Puis en fait, donc, des gagnants, maintenant, il n'y en a plus avec ce système-là. Parce que les consommateurs payent plus cher. Ils se font rouler complètement. Puis les producteurs, eux autres, ils tiennent au quota parce qu'ils ont acheté. Puis ça leur donne un prix plus élevé, mais en même temps, ils sont étranglés par les intérêts qu'ils payent sur les emprunts. Puis il n'y a pas de solution, hein, parce que si on réduisait les quotas puis qu'on montait le prix grâce à ça, parce qu'on crée une rareté encore plus grande, mais les quotas se vendraient encore plus cher, parce que les quotas sont vendus à l'enchère. Hein. C'est ce que les économistes appellent s'emparer de la rente. Les agriculteurs de la première génération qui sont morts depuis longtemps ou qui sont en retraite, en tout cas depuis longtemps, là, c'est les seuls gagnants de ça. Là. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'on a répété ça dans le domaine du sirop d'érable il n'y a pas longtemps.
Exactement.
Et on devrait le savoir maintenant. Là. En plus, le sirop d'érable, le lait, on peut se protéger, on peut protéger nos producteurs en fermant les frontières avec des gros tarifs douaniers. Mais le sirop d'érable, on n'importe pas, on en exporte. Fait que là, on se ramasse avec du sirop d'érable qui vaut beaucoup plus cher. Fait qu'on exporte beaucoup moins. En fait, les Américains commencent à en produire des quantités considérables maintenant parce qu'on a fait monter le prix avec nos quotas. Fait qu'on fait juste rétrécir la taille de notre industrie. C'est vraiment... c'est fou, mais il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont gagné à court terme avec ça. Hein.
Donc, si on a une chose à retenir, c'est justement, il faudrait revoir ces taux de taxation-là au niveau des douanes, avoir des politiques évidemment très claires par rapport à nos voisins au sud qui sont nos partenaires au niveau du commerce international qui somme toute, sont à la base même de l'économie canadienne.
Ah oui, et puis en fait, ça vaut vraiment que de la peine que je le répète, hein. Il n'y a aucun pays qui a jamais été ruiné par le commerce international. Et plus fort que ça, les pays les plus riches sur la planète, c'est les pays les plus ouverts, puis les pays les plus pauvres de la planète, c'est les pays qui sont les plus fermés. Puis les pays pauvres qui nous rattrapent, comme la Chine et d'autres, c'est des pays extrêmement ouverts. Puis les pays pauvres qui ne nous rattrapent pas, qui restent pauvres, c'est des pays qui sont fermés.
Parce qu'en bout de ligne, c'est le consommateur qui en paie le prix. On parle à ce moment-là d'un appauvrissement par rapport à son pouvoir d'achat. Parce que si on paie le litre de lait deux fois son prix ou trois fois son prix, c'est notre pouvoir d'achat qui est directement impacté.
Ben oui, tout à fait. Puis c'est encore plus scandaleux pour le lait parce que, tu sais, le lait, c'est pas du coke, là. Ouais. Tu sais, si on a des enfants, on a besoin de lait, hein. Puis ça, il faut, dès qu'on a des amis ou des connaissances qui viennent d'autres pays, vous leur en parlerez. Moi, j'enseigne à HEC, puis j'ai plein d'étudiants européens, et puis je leur demande, est-ce quelque chose qui vous frappe au niveau des prix au Québec? Puis c'est unanime, hein. Ils nous disent le prix du lait et des produits laitiers, donc le fromage. Les Français, entre autres, mangent beaucoup de fromage. Il est hallucinant, les autres, ils n'en reviennent pas. Et puis le prix des cellulaires aussi, les forfaits cellulaires. C'est pas compliqué. Et saviez-vous, j'ai appris ça la semaine passée, il y a 2 millions de cellulaires à Haïti. Un des pays les plus pauvres de la planète. Wow. Mais je vous garantis que s'il y a 2 millions de cellulaires, c'est parce qu'ils ne payent pas les tarifs et ils ne payent pas les forfaits québécois et canadiens.
Effectivement. Ouais. Merci beaucoup. Et on invite les gens sur le site Internet de l'Institut économique de Montréal ou iedm.org. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup.
Au revoir. Merci. Donc, c'est intéressant. Hein? On voit que le commerce international a vraiment de l'impact sur nos vies.
Ça nous touche plus qu'on pense.
Et qu'on devrait avoir des mesures beaucoup plus ouvertes par rapport à ce qu'on pourrait penser, parce que certaines personnes ont tendance à vouloir protéger un peu les douanes, les points d'entrée, puis on voudrait des fois limiter le commerce international, mais je pense qu'on aurait tout à gagner, comme le dit M. Belzile. Effectivement, on s'appauvrissera pas à accentuer le commerce international.
Exact. Il y avait un exemple, je sais pas si tu as vu le film Food Incorporated, Food Inc.
Oui, j'ai vu ça.
Et ils donnent l'exemple du maïs dans ce film-là.
Oui,
ils disent que le maïs aux États-Unis est très subventionné, ce qui fait qu'il y a plus d'agriculteurs qui veulent aller dans ce domaine-là. Ce qui fait baisser les prix parce que l'offre augmente. Et là, le gouvernement se trouve à être obligé de subventionner plus parce que les gens ont un prix trop bas pour le maïs. Donc, c'est une roue qui tourne tout le temps. Donc, il faudrait peut-être que les gouvernements comprennent que passez-vous un petit peu du chemin. Ça va donner un équilibre sur le marché qui va donner des prix que les gens veulent vraiment payer pour leurs denrées. Puis si c'est pas payant en bout de ligne de faire du maïs, ben les gens produiront autre chose. Là. Il n'y a pas juste. Faut pas tomber dans la monoculture non plus. Là.
Non, effectivement, faut toujours rester diversifié. Hein, on se retrouve de l'autre côté. On est à l'émission Connaître la suite sur les ondes de XM 172. De l'autre côté, on va s'entretenir avec Vincent Gelosso. On va parler du taux d'imposition des entreprises. Vous êtes sur les ondes de XM 172. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? What if I fell to the floor? Couldn't take this anymore. What would you do?
if I wanted to break.
Et oui, on est de retour. On était parti, là. Un peu plus pour en oublier le retour à la pause. Ben, c'est ça, nos prochains invités. On a un des deux.
Un des deux,
d'arrivée. Oui. On se posait la question. C'est Yann Sénéchal. OK. On va lui parler.
On peut juste présenter la chanson qu'il y avait avant?
Oui, vas-y.
Ça, 30 Seconds to Mars. Ils ont annoncé la vente des billets commençait hier en pré-vente.
C'est un de tes groupes, ça, hein?
Ouais, moi, je vais être là. J'ai acheté mon billet hier en pré-vente. 3 mai à Montréal, à la salle qui pue le plus le rock. Le Métropolis. Quelle salle extraordinaire. Donc, 3 mai à Montréal. Les billets étaient en vente ce matin, donc vous pouvez peut-être vous renseigner. Je ne sais pas s'il y a de la place. C'était The Kill.
Oui, The Kill. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, on va discuter avec Vincent Gélosso. Par contre, c'est préenregistré, donc on a fait ça plus tôt cette semaine. Il y en a pour environ une vingtaine de minutes. Et ensuite, on va s'entretenir avec les gens du réseau Liberté Québec. Donc, je vous mets ça à l'instant et on se retrouve de l'autre côté. Mercredi, le 9 février dernier, les libéraux, grâce à l'appui des néo-démocrates et des bloquistes, ont réussi à faire adopter une motion sur l'élimination de baisses d'impôts visant les grandes entreprises. Pour en parler, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Vincent Gélosso, économiste à l'Institut économique de Montréal. Bonjour Vincent.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très bien. Tout d'abord, en mentionnant à nos auditeurs que toi et Jasmin Guenette aviez, en décembre 2010, produit un article « Les conséquences négatives de l'imposition des entreprises sur l'investissement et sur les travailleurs ». Ma première question, avant de parler des incidences, est quel est le taux moyen d'imposition des entreprises au Québec et par rapport à l'Occident, où le Québec se situe-t-il?
En fait, il y a plusieurs formes de fiscalité différentes, mais la réponse est très simple. Il y a le taux statutaire sur le profit des entreprises au Québec, c'est 11,9%. Puis au Canada, on est relativement compétitif.
Donc, si on compare par rapport à l'Occident, on est compétitif, donc on n'est pas plus gourmand ou moins gourmand qu'ailleurs.
En fait, le Canada, dans son ensemble, est relativement dans la moyenne de l'OCDE. Le pays dans l'OCDE qui taxe le plus, c'est qui impose le plus les entreprises, c'est les États-Unis.
Alors, comment on peut expliquer à ce moment-là la motion que les libéraux ont votée en Chambre avec l'appui des néo-démocrates pour justement contrecarrer les baisses qui avaient été pourtant annoncées, je dirais à l'origine aussi, par le Parti libéral?
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'impôt des entreprises, toute l'imposition qui est chargée aux entreprises, elle est accumulée c'est le travailleur qui l'assume, cette l'imposition des entreprises. Ce n'est pas du tout les investisseurs peuvent se déplacer, c'est le travailleur qui est le perdant au final de l'imposition des entreprises.
On voit justement dans l'article que vous avez produit en décembre 2010 que les conséquences peuvent être néfastes justement sur ces mêmes travailleurs et surtout au niveau des investissements.
Oui, en effet, ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, n'importe quel individu, disons, toi puis moi, on est des investisseurs, on est des entrepreneurs, bien, le taux d'imposition trop élevé, soit ça peut, disons, toi, te dire, ben je partirai pas ma petite business, ou moi, disons, que je suis un Américain, je veux investir au Canada, puis que le taux d'imposition est, disons, trop élevé, moi, je vais dire, finalement, laisse faire, je vais pas investir, moi, je vais investir mon argent ailleurs. Donc, en soi, à cause de ça, il y a moins d'investissement qui se fait. Cet investissement-là, c'est pas de la croissance de productivité. Ça, c'est des firmes. La productivité, c'est ce qui permet à une firme d'être profitable. Si elle ne peut pas être profitable, elle ne peut pas prendre l'expansion, elle ne peut pas créer des nouveaux emplois, elle ne peut pas offrir de la formation additionnelle à ses employés puis qui va justifier des salaires plus élevés. En gros, tout le temps, la grande partie de l'imposition des entreprises va être assumée par les travailleurs par une rémunération plus petite et peut-être moins d'emplois.
Donc, en bout de ligne, peu importe si on parle d'une hausse ou d'une baisse, le travailleur, c'est toujours lui, en bout de ligne, qui va assumer les frais, on va dire, de cette hausse ou de cette baisse.
Oui, en effet, parce que les entreprises, c'est le processus de création de la richesse. C'est par les entreprises qu'on crée des emplois, qu'on produit des biens et services. Quand on taxe une entreprise, on taxe le processus de la création de richesse.
Donc, on peut-tu dire que si demain matin, parce que certaines personnes pourraient utiliser la stratégie, justement, et la volonté de vouloir aller vers des hausses, ça veut donc dire qu'on pourrait affecter directement le PIB de notre province ou du pays?
Je vais donner deux exemples. Le premier, c'est comme pour l'exemple du capital qui est mobile puis les gens peuvent se déplacer. Le meilleur exemple, c'est Tim Hortons. Aux États-Unis, notre voisin du Sud, le taux d'imposition des entreprises est très, très élevé. Ce qui s'est passé, c'est comme quand le Canada est devenu un pays fiscalement compétitif, pas le plus compétitif, mais fiscalement compétitif, ben Tim Hortons est revenu établir son siège social au Canada parce qu'avant, il l'avait mis aux États-Unis. Ça, c'est une administration du capital mobile. Ça, c'est des emplois qui sont revenus au Canada parce que l'imposition des entreprises était plus compétitive ici. Puis l'autre exemple, c'est une étude qui s'est faite en Europe. Ils ont pris 23 000 entreprises qui étaient présentes en Europe et ils ont regardé combien, si on augmente l'imposition d'un point. Si, disons, Québec, on augmentait de 11,9 à 12,9, ça serait quoi l'effet? Mais s'il y a le même effet qu'on a remarqué dans cette étude-là en Europe, un petit peu plus que la moitié de cette hausse-là va être assumée à court terme par le travailleur. Puis à long terme, chaque dollar que cette hausse-là aurait augmenté en revenu pour le gouvernement, ça va être plus que un dollar en perte pour le travailleur sous forme de rémunération globale. Fait que ça peut être rémunération globale, ça peut inclure l'assurance dentaire que ton employeur t'offre, une assurance vie, une assurance catastrophe ou une garderie dans l'entreprise. Quand on taxe l'imposition des entreprises, on réduit le salaire des travailleurs. Puis il y a plusieurs études qui le disent là-dessus, puis ce que je viens de citer, c'est un des exemples.
Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que les grandes entreprises, eux autres, aussitôt qu'ils vont avoir une majoration, comme tu dis, d'un point, à ce moment-là, ils vont couper un peu dans les conditions sociales ou excédentaires qui pouvaient être offertes aux employés. Puis est-ce que ça peut être très menaçant pour les petites, moyennes entreprises? Est-ce que ça peut mettre à risque des entreprises à ce moment-là?
En fait, ce qu'il faut comprendre, ce que tu viens de dire, c'est oui, en effet, ça va être, mais c'est pas l'entreprise va pas couper les salaires nécessairement. Elle va juste les faire croître beaucoup moins vite. Parce que si, disons, tu taxes une entreprise, tu taxes son profit, ben tu vas lui dire, ben je peux pas l'investir dans ma firme pour qu'elle devienne plus profitable dans le futur. Donc, si la firme peut pas être plus profitable dans le futur, tu peux pas investir dans un employé qui est mieux formé, un employé qui a des meilleurs salaires ou pour attirer des gens d'ailleurs pour qu'ils viennent faire une job. Donc, tu nuis au prospectus les possibilités d'avenir des travailleurs et tu réduis la possibilité d'emploi. Parce que la question, tu viens de parler des petites entreprises, ben, il y a un effet décourageant sur le démarrage d'entreprise. Il y avait une étude de deux économistes de Harvard qui ont pris dans un des grands journaux américains de sciences économiques. Ils ont regardé que quand, en général, tu augmentes d'un point l'imposition des entreprises, tu diminues le nombre d'entreprises par 100 habitants. Donc, oui, ça a un effet négatif sur l'investissement d'une part, mais aussi sur le démarrage d'entreprise. Donc, ça nuit à la possibilité d'emploi dans le futur. Un exemple, ça serait de dire que si, disons, est-ce que les États-Unis, si dans les années 60-70, en fait, dans les années 60-70, ils avaient taxé comme des fous, ben peut-être qu'il y a des Microsoft qui ne seraient pas venus au monde. Peut-être qu'il y a des Facebook qui ne seraient pas venus au monde. Il y aurait des Google qui ne seraient pas venus au monde. Bon, maintenant, les États-Unis, c'est un des pays qui taxe le plus. Mais au Canada, peut-être que la compagnie qui fait les BlackBerry, RIM, Research and Motion, serait pas venu au monde. Ça a un effet très négatif aussi sur le démarrage d'entreprise, donc sur la création d'emplois dans le futur.
OK. Et par rapport justement à la tentation des gouvernements à vouloir hausser ces taux de taxation-là pour aller chercher des revenus supplémentaires, c'est pas pour eux aussi une forme de conséquence qui pourrait être néfaste par rapport justement à des futures subventions pour réinjecter de l'argent au sein de ces entreprises-là qui vont avoir souffert pendant peut-être X nombre de mois ou d'années à cette pénurie-là de capitaux pour pouvoir réinvestir, comme tu dis, sur leur main-d'œuvre. Donc, le risque est élevé pour un gouvernement d'aller, au contraire, justement, à des baisses.
Ben en fait, le gouvernement aurait tout à fait avantage à aller dans le sens d'une baisse. Parce que si, disons, on développait un avantage compétitif sur le plan fiscal, là, mais vraiment, tu sais, on devenait le pays, donc le Canada devenait un pays très, très fiscalement compétitif, puis attirait beaucoup d'investissements. Non seulement il pourrait, en attirant cet investissement-là, il accélérerait sa croissance économique, mais il y aurait une base fiscale plus grande à taxer. Je veux dire, il y aurait une plus grosse tarte pour tout le monde, duquel le gouvernement prendrait une part plus petite, mais que somme toute, cette part-là, est en termes de montant de qu'est-ce qu'il y a dedans, ben il y en a plus.
Étant donné le volume, à ce moment-là, dans l'entreprise. Et à ce moment-là, je pense que j'imagine, ou peut-être une proposition, c'est peut-être de sabrer dans les subventions à ce moment-là pour ne pas jouer sur deux plans?
Ben écoute, ça nous amène sur un point intéressant. Le problème au fédéral, c'est pas un problème de revenus. On me dit qu'au provincial, c'est pas un problème de revenus pour les finances publiques. C'est un problème de dépenses. Il y a définitivement, quand on regarde la colonne des dépenses publiques, il y a des coupures qui peuvent être faites. Au Québec, réduire les subventions aux entreprises, pour éviter justement de prendre l'argent d'une entreprise, la donner à une autre, puis redistribuer, empêcher la concurrence de jouer comme ça, ben juste les ramener, ces subventions-là, au niveau de l'Ontario, ben on se retrouverait à réduire des subventions aux entreprises de 3 milliards au Québec. C'est quand même beaucoup. Au niveau fédéral, il y a aussi autant de il y a énormément de subventions qui sont offertes dans le secteur agricole. Donc, il y a clairement le problème de tous les gouvernements du Québec et du gouvernement fédéral, c'est un problème de dépenses, pas un problème de revenus.
Du côté, ça ressemble à quoi la différence entre les taux de taxation, d'imposition plutôt des entreprises entre le Canada et les États-Unis?
Aux États-Unis, c'est en fait, quand on regarde la tendance des pays de l'OCDE, la tendance est à la baisse. Les États-Unis, c'est le seul pays qui, depuis les années 90, n'a pas baissé son taux d'imposition des entreprises. Et ça reste environ autour dans la trentaine de pourcents. Là. Des fois, il y a des ça dépend des parce qu'il y a plusieurs manières de le calculer, mais en gros, c'est aux alentours de 30% que les États-Unis taxent les entreprises. Au Canada, quand on ajoute le Québec et le provincial, on est autour de 25. À la fin de la réforme, on va être autour de 25. Donc, on aurait un avantage définitif par rapport aux États-Unis. La preuve, c'était Tim Hortons qui revient au Canada.
Exact. Puis dans les pays que vous avez étudiés, là, ça serait quoi le meilleur système fiscal? Dans quel pays on trouverait le meilleur système fiscal pour les entreprises, selon vos études?
En fait, le meilleur exemple, premièrement, il y a quelque chose que beaucoup de gens oublient de noter souvent, c'est qu'un des pays qui dépense beaucoup plus que le Canada, que le Québec, par exemple, puis que le Canada en général, c'est les pays scandinaves, et pourtant ces pays-là font très, très, très peu usage de la fiscalité des entreprises pour se financer. Au contraire, ils ont des taux d'imposition des entreprises très faibles au sein de l'Union européenne. Donc souvent, il y a des exemples comme ça qui nous rappellent un peu que gauche, droite, c'est pas vraiment important dans ce débat-là. Là. Généralement, c'est un principe économique de base. Les entreprises, les compagnies, c'est la manière de créer de la richesse, c'est le processus de marché. Et quand on les taxe, on décourage ce processus de création de richesse.
Et qu'est-ce qu'on peut répondre à ceux qui nous comparent souvent? Parce qu'avec la mondialisation, c'est sûr qu'on a tendance à nous comparer avec des économies comme maintenant celle de la Chine, de l'Inde. Est-ce qu'à ce moment-là, on se bat contre des systèmes qui sont un peu différents justement par rapport à la gestion des capitaux des entreprises par rapport au taux d'imposition ou on se bat à armes égales?
Ben en fait, il y a rien. C'est pas quand tu dis mondialisation puis tu dis se battre à armes égales, la mondialisation, c'est pas une question de se combattre à armes égales. C'est que quand un échange se produit entre deux personnes, les deux sont mutuellement gagnants d'avoir fait cet échange-là. Si un échange s'est produit, c'est parce que tout le monde était gagnant. Donc, premièrement, faut pas se mettre en tête que la mondialisation, c'est une question de conflit. Quand on échange avec la Chine, on envoie, disons, qu'est-ce que nous, on fait de mieux pour en Chine, puis que parce que nos entreprises ici, disons, sont capables de en faire affaire, puis qu'ils sont capables de se démarrer, puis ça, ils peuvent exporter dans d'autres marchés. Ben, on va échanger avec les Chinois, puis nous autres, on va être gagnants, puis eux autres vont être gagnants.
Non, je suis d'accord, mais mon point, c'est plus au niveau, on a souvent l'impression, ou certaines personnes peuvent avoir l'impression qu'il n'y a pas de réglementation dans ces pays-là, que les entreprises ne paient pas du tout d'impôts parce que c'est un peu aussi géré sur la gueule en bon québécois. Donc, est-ce que on se bat justement à armes égales? Parce que si ces entreprises-là n'ont aucune réglementation, aucune taxe à payer envers l'État...
Ben écoute, s'il y a de l'équité dans tout ça... Premièrement, au Canada, on a beaucoup d'avantages en termes de productivité de la main-d'œuvre. On a des travailleurs qui sont beaucoup plus productifs. On a des travailleurs plus éduqués. Il y a plein de choses qu'on a des avantages dans lesquels les entreprises n'auraient pas intérêt à aller en Chine, disons, juste pour ce que la fiscalité est plus basse. Je veux dire, est-ce qu'ils peuvent faire venir des ingénieurs, disons, est-ce qu'une firme comme SNC-Lavalin pourrait faire venir des ingénieurs qualifiés en Chine pour travailler en Chine juste pour avoir des taux d'intérêt plus bas? Oui, ils vont peut-être ouvrir un bureau là-bas, mais en tant que tel, la question, c'est dans la mondialisation, c'est comment est-ce que les marchés concurrentiels, ouverts, peuvent créer de la richesse. Puis dans ça, ce qui est important, c'est notamment d'avoir une fiscalité qui permet aux entreprises de démarrer.
OK. Puis si on regarde par rapport justement aux incidences sur le travailleur, parce que je pense que c'est ce qui va intéresser le plus notre auditoire, demain matin, justement, si on se retrouve avec une hausse précipitée, tantôt on a parlé évidemment que le travailleur, de toute façon, c'est lui qui va en payer le prix, mais est-ce que ça pourrait avoir des conséquences assez directes sur sa vie par rapport au coût des produits et des services? Est-ce que c'est quelque chose qui peut rapidement, évidemment, dégénérer pour monsieur, madame, tout le monde?
Bien, premièrement, annuler la baisse d'impôts qui est parlée présentement, ce ne serait pas nécessairement une hausse de l'impôt, ce serait juste une parce que ce qui se passe, c'est que là, on l'a baissé à 16,5 cette année. l'année prochaine, il va descendre à 15.
C'est ça, oui.
Ça serait pas une hausse de l'impôt, ça serait juste pas te donner la baisse qu'on t'avait promis. Bon, par contre, l'effet négatif que ça aurait sur les consommateurs, c'est le suivant. C'est qu'une entreprise qui fait moins de profit puis qui est moins concurrentielle, une entreprise qui a plus de difficultés, disons, peut-être à offrir à ses fournisseurs ou à ses clients des meilleurs prix. Fait que si l'entreprise a plus de difficultés financièrement, disons, je suis une entreprise qui répare des machines de chauffage. Ben, à cause de l'imposition des entreprises, disons, je dois demander un petit peu plus à mon client pour réparer sa machine. Ben, lui va se retrouver avec un petit coup de plus que lui va peut-être passer à son client. Donc oui, il y a un effet sur les coûts. Il y a un effet sur le niveau des prix. Ça réduit la capacité des entreprises de se concurrencer puis de faire baisser les prix par des gains de productivité.
Est-ce que ces entreprises-là, dans différents domaines, travaillent avec les mêmes taux d'imposition ou est-ce qu'il y a des spécificités liées à des domaines comme l'agriculture, la construction?
En fait, oui, mais pas dans le sens du taux. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a plein de dépenses fiscales, des crédits d'impôt qui existent pour mille et une choses, des crédits, bon, en fait, tu peux déduire plein de dépenses, mais il existe des crédits d'impôt, par exemple, pour les entreprises, exemple, il y avait jusqu'à récemment une déduction fiscale pour les entreprises manufacturières, celles qui font, exemple, disons, du textile, tu sais, qui font des t-shirts, disons, et elles avaient une déduction sur la taxe sur le capital. Elles autres pouvaient dire, moi, je vais déduire ça de ça, moi, je vais pas la payer. Donc, il y avait des choses comme ça qui existaient, des déductions fiscales qui faisaient en sorte que, en différentes industries, le taux d'imposition effectif, là, je veux pas emmerder tes auditeurs avec des termes complexes, mais il y a des taux qui différencient selon les industries. Mais le principe de base dans la réduction de l'imposition des entreprises, c'est le suivant. C'est de traiter toutes les entreprises également, premièrement. C'est la première chose qu'il faut faire. Donc, il y aurait un potentiel de réduire l'impôt des entreprises, mais il y aurait aussi une manière de réduire les subventions aux entreprises. Puis les subventions aux entreprises, il existe aussi ce qu'on appelle c'est des crédits d'impôt à une entreprise par-dessus une autre entreprise ou à une industrie par-dessus une autre industrie. C'est une subvention indirecte. Donc, il y aurait du potentiel pour les couper, dans la lutte au déficit budgétaire, mais aussi pour permettre un traitement équitable entre entreprises. Il y aurait un potentiel de baisser, bon exemple, en Manitoba, ils ont éliminé récemment. Le gouvernement néo-démocrate a éliminé l'impôt sur les petites entreprises. Bon, il y a un impôt pour les autres entreprises. En général, le but, c'est de les baisser totalement, mais il y aurait du potentiel pour avoir un seul taux très bas.
Et selon l'Institut économique de Montréal ou selon vos recherches, quel serait le taux, justement, cible là, qu'on devrait viser là, d'ici les 4-5 prochaines années?
J'ai pas un taux cible en soi qui est comme le taux parfait là, que je peux te présenter, mais l'idée qu'il faudrait se rappeler, c'est d'avoir un taux qui nous mettrait en avant sur les autres pays industrialisés pour qu'on puisse attirer de l'investissement. Ça serait la chose qu'il faudrait faire.
OK. Et à ce moment-là, j'imagine que le gouvernement aurait peut-être des devoirs là, pour revoir, comme tu dis, un peu de fond en comble les systèmes là,
de dépenses.
Oui,
il y a des grosses réductions de dépenses qui peuvent être effectuées au gouvernement fédéral et provincial.
Donc, merci beaucoup, Vincent.
C'est un plaisir.
Et on invite les gens à consulter le site de l'Institut économique de Montréal au iedm.org. Merci.
C'est un plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
The throne, but tell me you're not home. No place to hide. You're fighting as a soldier on this side. You're still a soldier in your mind, still nothing's on the line. You say it's money that we need, as if we're only mouths to feed. I know no matter what you say, there's some debts you'll never pay. Working for the church while your family dies. You
take what they give you and you keep it inside. Every spark of friendship and love will die without a home. Hear the soldier groan, glad it alone. Lift me up, take me out of here. Don't wanna fight, don't wanna die, just wanna hear you cry. Who's gonna throw the very first stone?
De retour à connaître la suite sur les ondes du XM172 et du RadioShock.fm. Je dois faire une petite parenthèse. On s'excuse pour les petits problèmes techniques que les auditeurs de XM ont peut-être éprouvé durant l'entrevue avec Vincent Genosso. On s'en excuse et on va corriger le tout pour une prochaine fois. On vient d'entendre une toune, une pièce musicale plutôt, d'un groupe controversé maintenant au Québec, Arcade Fire.
On a réussi à le controverser.
Je vais monter ton son un peu.
C'est ça, on a réussi à le controverser.
Oui, on est bon pour la controverse au Québec.
Très bon.
On va accueillir immédiatement nos prochains invités. On va terminer la soirée avec eux. On a le plaisir, le bonheur d'accueillir Joanne Marcotte et Yann Sénéchal, cofondateurs du réseau Liberté Québec, qui vont venir nous parler d'un événement qui s'en vient assez... Ça s'en vient bientôt. Le temps de s'inscrire, de prévoir le voyage. Donc, bienvenue à Joanne et Yann.
Salut.
Bien content de vous avoir parmi nous. Parlez-nous de l'événement RLQ Montréal.
Ben, l'événement va avoir lieu le 16 avril. C'est à Montréal, à l'hôtel Hilton Bonaventure. On est content d'aller à Montréal. On s'est souvent vu comme la capitale de la gauche au Québec. Je pense que c'est important qu'on fasse ce mouvement-là. On a prouvé des choses à Québec, mais si on réussit à faire un meilleur événement à Montréal, on va en prouver encore plus. Et puis, on va montrer qu'il y a un désir pour la droite au Québec. Le 4-5-0 autour de Montréal va pouvoir participer à l'événement. Le 5-1-4 aussi. Et puis, je pense que ça va être vraiment intéressant d'aller voir là. Puis, il y a plusieurs personnes qui nous ont suggéré, « Ah, vous devriez pas aller sur l'île, vous allez être proche des métros, il va y avoir des manifestants. » Puis Ah non, on va en plein milieu de l'île, à côté du congrès du PQ, le 16 avril. On est fiers de ce qu'on est, puis on s'affirme. Je pense que c'est ce qu'on voulait faire.
Et d'ailleurs, on peut rappeler aux gens que vous avez vécu à Québec aussi des manifestations. Il faut se rappeler, hein, il y avait eu de nombreuses manifestations. C'est-tu quelque chose qui vous fait peur? Avez-vous une logistique particulière?
Pas du tout, on en veut.
Vous en voulez?
On en veut, non, on n'a pas peur de ça.
Parce que des fois, au Québec, effectivement, des événements comme ça, ça peut être le prétexte pour des organismes, et surtout pour la gauche, de se manifester.
Ouais. Sauf qu'on nous dit que les manifestants vont quand même être assez occupés là, cette journée-là. Il va y avoir le conseil, le congrès du Parti québécois. Nous, on est au Bonaventure, comme Yann vient de le dire, puis il semblerait que c'est assez compliqué, là, cet édifice-là. Fait que je pense quand même que ça sera moins efficace, les manifestations, s'il y en a, parce qu'on va être à quelque part dans un immense hôtel. T'sais, c'est pas comme s'ils pouvaient faire du bruit juste à côté de nous, comme ici à l'Auberge du Gouverneur, ou même ils ont été obligés d'aller de l'autre côté de la rue pour déposer. T'sais. Fait que non, on n'a pas vraiment peur. Je te dirais que c'est un non-sujet pour nous. S'il y en a, il y en a. Il va y avoir de la sécurité. C'est d'ailleurs ça qui va nous coûter le plus cher. Et c'est pour ça qu'on passe de 25 à 45 $. Donc, parce que l'hôtel nous oblige de prendre leurs hommes de sécurité. Puis, ben tant mieux, parce qu'on va se sentir bien, puis on va se sentir protégé, puis on va pouvoir parler en toute...
Ben justement, parlons-en des coûts. Combien ça va coûter cette fois-ci pour participer à cet événement-là?
Ça va être 45 $ pour les gens qui sont des participants actifs au réseau, des membres si vous voulez. 50 $ pour les gens qui ne le sont pas. Et puis, comme on dit, les coûts ont augmenté un peu, mais on continue de charger un prix qui est très abordable pour l'événement. Nous, notre but, c'est de faire un événement break-even. C'est pas un événement pour faire des profits. Et puis, on pense qu'on va avoir tout un setup. Et puis, mais qu'on vous présente la carte complète des conférenciers, chose qu'on fera pas ce soir. On va juste en présenter deux.
On va sortir des noms, nous. Tu sais que moi, je suis bon pour trouver les noms.
tu me parlais de Denise Bombardier. Hein? C'est pas elle qu'on a annoncé, finalement, je pense.
Non, mais je me disais plus tard, parce que je sais que Joanne t'aime beaucoup, Denise Bombardier.
Oui, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est une des femmes qui a le plus de jugement au Québec. Elle puis Myriam Segal. Récemment, je suis tombée en amour avec Myriam Segal.
Qui était ici à Québec lors de l'événement, Myriam.
Oui, qui a animé, puis on l'a connu davantage, mais je l'écoute aussi sur un autre poste de radio, puis je trouve donc bien qu'elle a un bon jugement.
Et justement, parlons-en des invités. Comment vous déterminez le contenu par rapport à justement... parce que l'événement en soi est aussi un point où les gens peuvent avoir accès à un discours qui est quand même assez particulier. Comment est-ce qu'on détermine si c'est pas les trends, mais comment est-ce qu'on décide ce qui devrait être là à ce moment-là?
Ça vient avec les connaissances, hein, les réseaux de tous et chacun. Roy Eapen, qui est notre Montréalais, il est extrêmement réseauté dans le reste du Canada, puis même sur le continent, en tout ce qui concerne les mouvements conservateurs. Il est plugué beaucoup, et il passe son temps à se promener avec sa caméra. Mais il y a une photo de lui avec à peu près tous les grands noms du mouvement. C'est très drôle, du mouvement conservateur. Donc, lui, il connaît beaucoup de gens. Éric connaît des gens aussi. Il y a des gens qui s'offrent à nous aussi. Puis, on essaie d'avoir donc des conférenciers en matinée qui ont des choses à dire, puis tout en étant dans le courant dont on fait la promotion. Puis, dans l'après-midi, ben on cherche un sujet chaud d'actualité. Puis, c'est ça qui est plate, de pas être capable de le dévoiler. Mais ça va être... essayer d'imaginer le sujet le plus chaud de l'heure, et c'est celui-là.
OK.
Donc, dans l'après-midi...
Il n'y a pas juste Québec, ça.
Oui, parce que là, il y a des autobus qui s'organisent de Québec, à ne pas confondre avec le Nordic Nation qui s'en va au New Jersey. Donc, c'est le fun pour ça aussi. Nouveau, ça, ces partenariats-là.
Oui, c'est quelque chose qu'on avait pensé au premier événement, mais vu qu'on voyait qu'on allait être sold out, on était quand même dans un petit hôtel, on a décidé que ça vaut vraiment pas la peine de le faire. Mais là, on voit un peu plus grand, on va à Montréal, on a une salle qui peut accueillir quand même beaucoup de personnes. On a une réservation pour 600. On a des options pour peut-être monter jusqu'à 1000. Alors, on se dit, pourquoi pas des autobus? On trouvait l'idée vraiment bonne. On a un partenaire qui s'est proposé avec nous pour s'en occuper. Nous, on a dit, c'est excellent. Je trouve que c'est une bonne chose. Les gens de Québec vont avoir un moyen de transport, vont avoir du plaisir pour la journée. Puis, dans le fond...
Puis cet appui-là, est-ce que vous la sentez aussi par rapport à Montréal? Est-ce que l'inscription, le taux d'inscription est plus favorable dans la région de Montréal? Ou parce qu'il y en a qui vont reprocher que Québec est en train de se pacter des autobus, mais ce que tu me disais là, avant d'arriver en onde, il y a des inscriptions.
Effectivement, pour l'instant, là, on a à peu près 75 inscriptions de rentrée.
En 48 heures.
Très rapide. Et puis, il y a 65-70% de ces inscriptions-là qui viennent du Grand Montréal. Donc, les gens à proximité de l'événement ont immédiatement compris que c'est un événement pour eux. Et puis, ils s'inscrivent immédiatement. Donc, nous, on voit ça comme un très bon signe. Il ne faut pas oublier, la région de Montréal, c'est 3,5 millions de personnes. On a beau dire, c'est une capitale de gauchistes. en bout de ligne.
C'est juste pour les taquiner, ça.
C'est ça. Tiens, je veux dire, ils sont pas vraiment différents de nous autres. Leur élite est différente de nous. Ils ont énormément d'élus sur l'île de Montréal. C'est une ville qui est immobilisée politiquement. Mais les gens sont pas pour autant vraiment différents des gens de la région de Québec. Oui, le multiculturalisme est plus présent. Mais en dehors de ça, vous regardez le 4-5-0, c'est très, très, très semblable à ce qu'on observe dans la région de Québec. Alors, je me dis, les gens de Montréal, là, faut arrêter de dire que c'est juste une gang de gauchistes. Il y a du monde à droite.
Non, c'est ça.
Puis même, je peux vous dire, c'est des gens qui sont très, très, très mobilisés de notre côté.
Il y avait Michel Hébert, le journaliste, qui parlait des impérialistes médiatico-montréalais.
C'est bon.
Il faut vraiment les différencier. Oui. Moi, j'ai vécu 5 ans à Montréal. Je ne sais pas si tu avais vécu à Montréal.
Toi, un petit gars, oui, un an, oui.
Et écoute, on reste. Moi, je restais dans un haut de duplex. Mon propriétaire, c'est un gars de Chicoutimi. Ton voisin, il vient de cette île. Tu sais, c'est du monde. C'est pas des Montréalais qu'on est habitué de lire dans les journaux. Là. Donc, les conversations qu'on a. Moi, ceux que j'avais là-bas ressemblent très beaucoup à ceux que j'ai en. Je viens de la Beauce. La Beauce, c'est un peu différent. Il y a vraiment un thinking différent que j'adore.
Bon.
Mais la ça, Beauce. J'embarquerai pas là-dedans. Je peux vous en parler des heures.
Effectivement, ça reste que c'est une dynamique qui est intéressante. Ça a pu sembler des fois comme une guerre, mais en bout de ligne, on fait juste s'amuser. Je veux dire, les gens de Montréal, on les taquine de toute façon.
Puis ils nous taquinent en retour.
Ils ne manquent pas, là.
Est-ce que ça va transpirer, ça, dans le discours d'ouverture? Est-ce que vous allez jouer un peu cette différence qu'on peut. Bon, on va dire au sens littéraire ou virtuel là, qu'on peut des fois décrier au niveau de Montréal et de Québec. Comme vous dites, je pense que c'est un peu pour se taquiner parce que fondamentalement, je pense qu'on a les mêmes convictions. Mais c'est-tu quelque chose qui va réorienter?
Des fois, j'aurais le goût. J'y pense à comment est-ce qu'on pourrait faire le mot d'introduction. Mais ce qu'on a à dire, nous tous, là, aux Québécois, qu'ils soient Montréalais ou Québécois de Québec ou des régions, c'est peut-être que c'est le temps de sortir du garde-robe, là. Et que ce soit, je pense que les Montréalais ont plus de difficultés à faire ça parce que justement, ils sont entourés de médias qui leur font la morale tous les matins. Puis, je pense par exemple, Radio-Canada, c'est à Montréal, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puis, fait que c'est teinté, ils sont très, c'est plus difficile pour eux autres d'assumer leur philosophie politique si elle est d'un courant plus de centre-droite ou de droite. Tu sais, je me souviens, j'ai reçu à un moment donné des courriels là, de gens qui sont toujours très impressionnés par des chroniques à la José Legault ou à la José Boileau ou à la Marie-France Bazot. C'est des femmes que je nomme là, mais c'est pas. Mais c'est ça, sont pognées dans ce climat-là. Puis je pense qu'on a tous, à un moment donné, les chroniqueurs eux-mêmes aussi, il y a quelque part qu'il va falloir apprendre à sortir du garde-robe, puis à assumer, puis à être fiers de nos positions, je dirais pas idéologiques, mais de notre philosophie politique. Puis ça a été ça, moi, la grande joie du 23 octobre, c'est de voir qu'il y avait 459 personnes cette journée-là qui avaient décidé, garde, moi je pense comme ça.
Et justement, par rapport à ceux qui auraient assisté à cet événement-là plutôt en 2010, est-ce que vous allez reprendre certains points que vous aviez promus à ce moment-là, à cette journée, à cette première événement, ou pour Montréal, vous allez carrément refaire un peu le matériel, puis panélistes sont différents, ça c'est sûr, dès le départ. Mais
c'est ça, nous autres, on n'est pas en train de construire un programme électoral. Là.
Non, donc
c'est un rassemblement, c'est pour qu'on se connaisse. On n'a pas un agenda de construire un programme politique, ce qui est très différent. Où là, oui, on arriverait avec des thèmes, puis là, on construit, on arrive avec une plateforme électorale. C'est pas du tout ça. Quoique, on peut peut-être expliquer la notion de sondage.
Oui. Dans le fond, nous, on est un petit peu mal à l'aise, le Réseau Liberté Québec, des fois, à prendre position au nom du Réseau Liberté Québec. Donc, on va défendre beaucoup nos principes, les principes de liberté, les principes de responsabilité. Mais de là, de dire, mettons, se positionner, on est contre le Colisée. C'est pas évident de faire ça parce que on représente qui? T'sais, nous autres, on n'est pas des gens qui représentent le.
C'est ça, vous n'êtes pas nécessairement mandatés par
nous. On n'est pas des porte-parole.
On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour quand même donner des outils à nos porte-parole pour qu'ils puissent exprimer les opinions de nos gens? Parce que c'est quelque chose qui revenait beaucoup dans un petit sondage qu'on a fait le 23 octobre, c'était enfin, vous êtes le lobby du monde ordinaire, vous êtes le lobby de la majorité silencieuse, puis exprimez-vous. Mais on veut quand même pas que ça devienne nous qui s'exprime au nom de ces gens-là sans les consulter. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire des sondages, dans le fond, avec nos membres, nos participants actifs. D'ailleurs, on est rendu à presque 550 participants actifs dans notre base de données. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que ces gens-là, on va leur envoyer un sondage, une douzaine de questions avant l'événement. Et puis, la journée de l'événement, on va présenter ça. On va dire, regardez, Réseau Liberté Québec, là, il y a 60% des gens qui pensent comme
ceci,
ça.
Ceci, là,
on va devenir confortable à exprimer des positions. Sans dire que c'est une position officielle du Réseau Liberté Québec.
Mais c'est déjà un net avantage par rapport à des organismes ou des mouvements qui prennent position parfois sans consulter leurs membres.
Et comment?
Et au Québec, on le voit souvent.
À commencer par les syndicats, c'est loin d'être démocratique.
Bon, c'est à ça qu'ils pensaient, je ne savais pas.
Oui, j'imagine.
Sauf que je ne veux pas le dire.
Ah, non, ben, on peut le dire, nous autres, gars.
Oui, c'est pour ça que vous êtes là. On fait parler les invités.
On va ignorer.
Non, mais c'est vrai, parce que. Puis ça, je pense que c'est important. Si les gens ont cette opportunité-là, c'est quelque chose qui parfois peut faire peur à d'autres organismes parce qu'ils se disent, oh, si le mouvement est contraire à ce que nous, on promouvoit comme ça, à gauche et à droite, c'est peut-être une claque dans la face. Puis, à ce moment-là, ça veut donc dire que ça va être sur une base régulière ou c'est ponctuel à l'événement?
Non, ben,
vous allez constamment...
Là, on est en construction. Hein?
C'est un prototype.
Oui, c'est ça. Le premier sondage va avoir lieu du 16 mars au 1er avril. Donc, ça va être intéressant ou important que les gens deviennent des adhérents. Des participants actifs au réseau, s'ils veulent recevoir ce sondage-là par courriel, puis ils auront à le compléter. Mais l'avenir le dira, là. Oui. On se donne pas, un sondage par année, ou même peut-être qu'à un moment donné, ce sera des sondages ponctuels sur une question en particulier. Tu sais, si, par exemple, dans l'actualité, il y a un sujet chaud, peut-être qu'on dira, on en porte un juste sur cette question-là, ça se peut, ça. Mm-hmm. Mais ce qui est à retenir, c'est que le Réseau Liberté Québec, c'est un ensemble d'individus qui sont tous situés à la droite du centre. Puis il y a différentes textures puis couleurs à ça. Fait qu'on peut pas arriver puis dire, voici, au nom de quel principe, je pourrais dire ça, il y en a aucun, là. Voici la position du RLQ. Fait que tout ce qu'on va pouvoir dire, comme Yann dit, c'est sur cette question-là, à 80%, les gens du Réseau Liberté Québec, ils pensent ceci, cela, tu sais. Ça va être intéressant de voir parce que, oublions pas, les deux objectifs, c'est un, se réseauter, se connaître, agir comme un lobby, comme dit Yann, puis deux, pousser les partis politiques à déplacer le centre vers la droite. Mais pour faire ça, il faut que nous, on s'exprime. Donc, il faut qu'il y ait à quelque part un indicateur. Là. Fait que c'est ça qu'on va construire. Puis ça marche tellement dans un pays, je me souviens plus c'est lequel, c'était-tu l'Australie?
Oui.
Où il y avait un groupe comme ça qui s'était formé, ça s'appelle Conservative Home. Et puis, c'est Roy qui nous avait donné cette idée-là. Et ils sont devenus tellement importants, ce groupe-là, que maintenant... Ils font des sondages, les gens les payent pour sonder leur clientèle.
OK, oui.
Tu sais, oui, parce que là, ils ont le pouls. Ils ont un pouls d'une certaine catégorie de citoyens. Okay. Moi, je trouve ça génial.
Donc, c'est des entreprises, probablement.
Oui,
toutes sortes. Donc, il y a de l'argent à faire avec telle strate de la société, puis tout ça.
C'est ça, des entreprises, des partis politiques, oui. Fait qu'on essaie ça. Moi, j'ai bien hâte de voir la
résultat. Puis, quelque chose qu'on a parfaitement conscience aussi, c'est que, comme un peu Joanne disait, il y a plusieurs textures dans la droite politique. Il y a des gens qui vont se définir nationalistes, plus de droite. Il y a des gens qui vont se dire centre-droit, des gens libertariens, des gens conservateurs fiscaux. À un moment donné, sur plusieurs sujets, ces gens-là, même s'ils sont à droite du centre, ils vont se diviser. Et puis ça, je pense que nous, faut qu'on ait conscience de ça.
Oui.
Faut qu'on respecte ça aussi. Oui, on est des porte-parole, on parle pour le Réseau Liberté Québec, on vend les événements, mais en bout de ligne, il faut prendre conscience qu'on parle pas non plus au nom de toutes les gens qui sont en arrière de nous, parce qu'il y en a des gens en arrière de nous. Ils ont chacun leurs convictions politiques, mais le but de nos événements, c'est que ces gens-là se rencontrent. C'est que des nationalistes, des libertariens se parlent, que les gens se réseautent ensemble, qui argumentent ensemble. Et puis, c'est là qu'on construit, parce que un nationaliste de droite avec un libertarien, des fois, sur plusieurs sujets, ils ne seront pas d'accord. Mais en bout de ligne, ils vont toujours être d'accord pour dire que la gauche, ça n'a pas d'allure. Fait qu'à un moment donné,
il y a un tronc commun.
Il y a un tronc commun.
Ils ont un ennemi commun.
Il faut se rendre compte qu'à gauche, c'est la même chose. Il y a des altermondialistes, là, name it, là, ça finit tout en is. Ils sont tous comme Québec solidaire, ils sont souverainistes. En bout de ligne, ces gens-là, ils combattent la droite ensemble. Ouais. Quand Régent Parent, il sort, ils sont tous d'accord avec Régent Parent pour combattre la droite. Puis nous, sans vouloir combattre la gauche, il faut se dire, regardez, on se bat contre un ennemi, si on veut. On utilise un langage un peu violent, mais bon, c'est pas grave. Mais on se bat contre un ennemi qui est bien organisé, qui est bien financé, parce que les centrales syndicales financent énormément d'organismes. Le milieu communautaire qui est hyper subventionné par le gouvernement et lui aussi nage dans l'argent. Et puis nous, ce qu'on a, c'est juste la force des idées. Des gens qui ont une volonté et puis qui font ça sur en dehors de leurs heures de travail puis de façon souvent bénévole.
C'est une grosse différence, ça.
Puis là, on parle...
Mais c'est étonnant de voir qu'on est menaçant quand même. Ouais. C'est étonnant de voir qu'avec si peu de moyens, avec du bénévolat, qu'on soit si menaçant. Moi, je trouve que...
Parce qu'il y en a que le fait de défendre la gauche, c'est leur métier. Là, cette semaine, c'était la tournée de François Saillant. Là. Et lui, il a juste à appeler les médias et tout le monde le couvre. Là.
Oui.
J'ai vu Radio-Canada qui était rendu dans une petite rue de Gatineau pour couvrir l'événement. Là. Mais lui, il vit de ça. Il vit des subventions qu'il va chercher pour combattre cette partie-là. Nous, on n'est pas... c'est pas notre philosophie.
Ce qui est intéressant de voir aussi, depuis qu'on est dans l'aventure du réseau Liberté Québec, c'est qu'on découvre... Moi, depuis un an, là, j'arrête pas de découvrir. Je découvre des blogs, je découvre des gens hyper intéressés. Oui. Je découvre des émissions de radio comme la vôtre qui sont lancé, on se rend compte que finalement, on n'est pas tout seul. On se rend compte que si on se parle entre nous autres, on peut devenir plus fort. On se rend compte qu'on a chacun un petit réseau autour de nous et qu'on peut faire collaborer ces réseaux-là pour faire des succès. Le 23 octobre, c'est un succès. Moi, je pense que le 16 avril, ça va en être encore un. Mais il n'y a personne qui peut dire que c'est grâce à Joanne Marcotte, que c'est grâce à moi, que c'est grâce à Éric Duhem. C'est grâce un peu à tout le monde. Tout le monde fait son effort. Moi, je regarde la motivation des gens sur Facebook à promouvoir l'événement dans leur réseau. Des fois, des réseaux complètement apolitisés. Et puis, ça marche. C'est comme ça que ça fonctionne. On a des histoires des gens qui votent pour le PQ depuis longtemps, qui restent à Longueuil, puis finalement, qui ont commencé à lire un Éric Duhem ou à écouter un Jeff Filion sur XM 172. Et puis, qui adhère à ces idées-là, il dit « ça fait 20 ans que je suis à politique, c'est pas parce que j'aimais pas la politique, c'est que j'entendais pas le discours que je voulais entendre. »
Je me reconnaissais pas,
La disponibilité a été longtemps restreinte. Puis, par rapport au Québec, on aime donner des étiquettes. Pour l'instant, c'est une bataille que vous avez à faire à tous les jours, parce qu'on essaie assez souvent d'étiqueter le réseau, j'imagine, puis les gens qui en font partie. Est-ce que c'est derrière vous, ça, ou maintenant?
Et le gain qu'on a fait depuis 23 octobre, en tout cas, on en parlait entre nous, c'est que finalement, s'il y avait des batailles entre nous, entre les différents courants de droite avant le 23 octobre, je pense que le 23 octobre a mis fin à ça. Puis je pense que tous les porte-parole ou les gens, justement, comme Jeff, comme tous les gens qui travaillent à promouvoir ces idées-là, ils se sont dit à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de se tirer entre nous. Là. Puis ça, c'est un gain qui est vraiment très
important. Qui est considérable,
important.
Oui, parce que l'union fait la force.
Du jour au lendemain, on a constaté ça. Moi, il n'y a plus de bataille sur Facebook à savoir qui est vraiment de droite, puis qui n'est pas vraiment de droite, puis toi, tu es un vrai, puis elle, c'est une fausse, puis elle, c'est... Bon, regarde. Fait, ça, c'est un peu tannant. On perdait du temps avec ça. Fait, ça, c'est un vrai gain. Ouais. Par contre, là où je dirais qu'il y a une bataille à faire, c'est de démystifier, de démoniser encore la droite. Oui, parce qu'on passe pour des radicaux encore de certaines personnes qu'on voudrait bien inviter à nos événements et qu'on invite à nos événements. Mais pour eux, on est des radicaux encore. Ils ont des fois, comme Daniel Smith, pour eux autres, c'est quelqu'un de radical. L'Alberta, c'est quelqu'un de... C'est un endroit où...
Il n'y a aucune compassion.
Exact. C'est pour ça que ça va être intéressant de rencontrer Daniel Smith. Moi, parce que moi, j'ai pas l'impression qu'elle manque de compassion, cette femme-là.
Non, je pense pas.
Exactement. Donc, il y a beaucoup encore de préjugés, puis étonnamment de gens qui sont très cultivés et éduqués.
Oui, c'est vrai.
Je les nommerai pas, là.
On veut des noms.
quand tu as parlé de Daniel Smith, peut-être que vous pourriez présenter les deux premiers noms qui ont été annoncés cette semaine avant de poursuivre.
Oui.
Daniel Smith, c'est la chef du parti Wild Rose Alliance de l'Alberta. Il se passe beaucoup de choses. Hein. En Alberta, de ce temps-ci, il y a eu la démission du premier ministre, puis il y a le Parti conservateur. Il y a son mouvement à elle, son parti à elle qui monte. Et est-ce qu'il y aura fusion des deux partis? Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'actions. Puis, ça va être sa première visite au Québec. Ça nous, c'est tout un honneur de la recevoir. Elle va faire une petite tournée aussi médiatique, je l'espère bien. Mm-hmm. Donc, elle, c'est vraiment très, très bien de la recevoir. Et puis, dans l'avant-midi aussi, il y aura un exposé par Michel Quilligagnon, qu'on connaît tous.
Oui.
Qui est en fait le créateur de l'Institut économique de Montréal. Il y a eu un petit séjour au conseil du patronat, mais pendant 3 ans, mais après, il est revenu chez eux. Mm-hmm. Vraiment, c'est le gars de l'IEDM. Mm-hmm. Et puis, il voulait nous faire un exposé. Vois-tu, ça, c'est quelqu'un qui s'est offert pour nous faire un exposé sur comment il voit, lui, le patriotisme. Ça va être intéressant, lui aussi. Puis, il va introduire Daniel, parce que ce sont des grands amis, Daniel Smith. Okay. Donc, ça va être ça, notre avant-midi.
Donc, c'est intéressant, parce que lors du 23 octobre, vous avez parlé de nationalisme.
Oui.
Et là, on va parler de patriotisme.
Oui.
Donc là, on parle de deux choses différentes. Comment vous le voyez ça, la différence, vous, entre les deux?
Ben, Michel, dans le fond, ce qu'il veut expliquer, c'est un peu le retour aux sources pour les Canadiens français. Il veut parler, entre autres, de Pierre Esprit Radisson. C'est des noms qui sont pratiquement inconnus à plusieurs personnes. Ben, mais finalement...
C'est une station de métro.
C'est vrai.
Ben, si c'est une station de métro, c'est parce qu'il y avait une raison.
Ouais, c'est ça. Donc là, on va savoir la raison.
Ben, c'est qu'en fait, c'est de revenir à notre philosophie de coureur des bois, d'entrepreneur.
Oui.
Les Québécois n'ont pas toujours été, n'ont pas toujours fait partie d'une nation sclérosée comme on est présentement.
On n'a pas toujours été au crochet de l'État.
On a déjà été des gens très entreprenants, des gens explorateurs qui roulaient l'entreprise.
C'est du grand commerce.
C'est ça. Il y a des belles histoires au Québec. Puis des fois, c'est peut-être... Moi, je suis jeune. J'ai 26 ans. Je suis sorti du système d'éducation. Puis j'avais l'impression que le Québec s'était apparu sur les cartes en 1960. Mmh. Avant ça, là, ça n'existait pas. C'était il s'était rien passé. Puis finalement, ce que tu te rends compte, c'est qu'il y a des personnages historiques hyper intéressants. Moi, un jour, j'ai lu des livres de Marcel Tessier. Puis on se rend compte que ces gens-là, il y avait une fibre à l'intérieur d'eux autres. Il y a un côté qu'on peut être fier d'être Canadien français, d'être Québécois, parce que on a été des gens très entreprenants par le passé. Puis je pense que c'est ça que Michel veut nous faire découvrir. Moi, j'ai hâte de l'entendre. Mm. Pourquoi aussi j'ai hâte d'entendre Daniel Smith? Moi, je suis fasciné par l'Alberta. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, vous avez un parti conservateur qui est au pouvoir depuis 20, 30 ans. Il est au pouvoir depuis tout le temps.
Ouais.
Puis là, les gens, ils mettent le Wild Rose Alliance en tête dans les sondages, ou maintenant un petit peu deuxième, ils veulent voter pour eux parce qu'ils sont plus à droite que les conservateurs. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant. Et puis, les gauchistes en Alberta, avant ça, ils étaient dans le NPD, dans le Parti libéral, mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que le NPD est un parti quasi démoli en Alberta. Le Parti libéral est à la quête d'un chef, si je me trompe pas. La même chose pour le Parti conservateur. Les gauchistes, ça, c'est Éric Duhaime qui me disait ça récemment, ont maintenant envahi le Parti conservateur. Fait que ça, c'est assez spécial. C'est vraiment pas la même dynamique. Mmh. Si on voudrait dire, c'est peut-être le miroir du Québec. Puis pourtant, la dernière fois que je suis allé en Alberta, on dit « OK, ils ont le pétrole. » C'est des gens sont juste chanceux, ils ont juste trouvé du pétrole. Non, il y a aussi une culture qui est différente. Mm-hmm. J'ai fait un voyage en Alberta, puis ce qu'on se rend compte, c'est propre. C'est vraiment propre, les villes là-bas. Les gens sont fiers de ce qu'ils sont. Et puis, aussi, les gens sont civilisés. Je regarde en automobile, à un moment donné, je sortais d'un centre d'achat, c'est une petite anecdote, j'ai mis mes deux roues sur le trottoir, je me suis fait klaxonner. Je comprenais pas pourquoi. Je le refais 2 jours après, j'en mets mes roues sur le trottoir, je me refais klaxonner. Les gens, ils disent « Hey, le touriste, c'est pas de même qu'on chauffe ici. »
Comment ça, tu mets tes deux roues sur le trottoir, toi?
Je le fais plus depuis ce temps-là. Mais
ça a pris 2 fois pour que tu comprennes.
Exact. Mais
Pas vite, le gars!
Mais ce qu'on voit là-bas, c'est que sont différents de nous autres, oui. Mais pas dans le mauvais sens. Les gens sont fiers. Les gens, ils sont fiers d'être Albertains. Ils sont fiers d'être Canadiens. Puis, à quelque part, on a à apprendre de ces gens-là aussi. Mmh. Nous autres, on a le droit d'être fiers d'être Québécois aussi, mais ce serait le fun que des fois, nos élites nous donnent des raisons d'être fiers de chez nous.
Et est-ce que c'est un mandat que vous vous êtes donné, justement, d'apporter ce point de vue-là qui est extérieur, mais qui est près de nous, là, quand même?
Ben
là.
Oui. Puis, j'avouerais que c'est un peu... pour avoir des gens excitants, je m'excuse, hein, mais pour avoir des gens excitants devant nous, là, je veux dire, on a été gâtés avec Ezra Levant.
Et j'espère. Oh. Et si j'ai un point marquant...
Est-ce que vous étiez?
Oui, de la journée du 23. Oui, oui. Mm-hmm. C'est...
On a fait même une émission de 4 heures d'après RLQ, 23 octobre.
Hein. Oui, ici lendemain. Même dans les studios, oui, on s'est gâtés.
Ah, 4 ouais. Heures, ouais. Ah ouais.
Moi, j'étais renversé. J'avais lu un peu sur les blogs, mais on n'a pas nécessairement accès facilement...
à ce que ces gens-là font, puis ouais. ça a été renversant comme discours.
Ouais. C'est de faire tomber les préjugés, ouais. dans le fond, c'est ça. C'est de faire tomber les dogmes, faire tomber les préjugés, puis trouver des gens excitants. J'avoue qu'au Québec, il faut chercher là, pour chercher. Avoir oui. les gens excitants. Oui. Là. Mmh. Vous cherchez.
Très d'accord.
Puis à l'événement du 23, il y avait des politiciens. Est-ce que c'est vous pensez à faire la même chose pour l'événement?
Il n'y en aura pas cette fois-ci.
Il n'y en aura
non.
pas.
Non, il n'y en aura pas.
C'est-tu dans les leçons apprises quelque chose que
non.
vous avez
non.
dit non,
non
ou
non.
C'est parce que ça arrive comme ça?
Non, ça arrive comme ça.
Ben, Danielle Smith est une politicienne.
Oui, c'est vrai.
Il faut quand même
c'est
pas
vrai, le dire. Oui, mais non, dans le panel puis dans les ateliers, il n'y en aura pas.
On n'a pas de gêne. Je veux dire. Nous autres, on le sait qu'on est indépendants, qu'on n'est pas au service de la DQ, on n'est pas au service des partis conservateurs. On fait notre petite affaire, mais on est sympathique à l'ASD. Moi, si un François Legault, demain matin, s'affirme sur le sens du monde, puis il dit « je veux faire un ménage, je veux couper la dépense », il va peut-être se faire inviter à notre événement. Il va falloir qu'il le prouve avant, là. Mm-hmm. Ça, on s'entend là-dessus. Mais je veux dire…
Tu me lances une perche, là?
Non, pas en tout.
Je pense qu'il te picosse, là.
Mais ça, on va y revenir tantôt.
Mais je veux dire, nous autres, dans le fond, on n'a pas vraiment de gêne à s'affilier à ces gens-là. Parce que de toute façon, ce qu'on leur demande, c'est venez donner votre show. Les gens vont vous aimer. Mm. Vous allez avoir du plaisir. C'est aussi simple que ça. Les gens voient des fois des gros complots ou voient des grosses mascarades en arrière du réseau Liberté Québec. Mais l'idée de base… C'est extrêmement simple, avoir du plaisir. C'est juste ça. Mm. C'est tout simplement
j'en
ça.
J'en ai eu du plaisir le 23 octobre, là, sérieusement. Là, c'est, moi, j'ai vraiment aimé ça. Et juste si je peux aider à vous faire vendre des billets, là, lors de l'atelier de Tasha Carradine,
oui, oui.
Michel Kelly-Gagnon, je suppose que vous étiez...
Oui,
je sais que vous êtes venu dans la salle.
Ouais, ouais, ouais.
Michel Kelly-Gagnon a fait un speech enflammé ouais, pendant l'atelier. Ouais. Là. C'était vraiment excellent.
Sur le financement des...
Le financement de l'IEDM versus le financement des syndicats et des ouais. autres lobbies. Là. Ouais. C'était vraiment excellent. Là. Ouais. S'il est enflammé comme ça lors de sa conférence, là, vous allez avoir tout un show.
Donc, vous revenez avec des ateliers encore interactifs comme ça où les gens ont accès
ouais,
aux panélistes.
Oui, c'est ça. Il y a un panel de 1h à 3h. Maintenant, je grossis. Puis de 3h à 4h30, il y a des ateliers. Est-ce qu'il va en avoir deux? Est-ce qu'il va en avoir trois? Pour l'instant, il y en a deux. Mais dans les ateliers, il y a une période de... En fait, c'est beaucoup une question. Une période de questions-réponses. Là. Mm. Fait que les gens ont l'occasion d'aller au micro puis d'échanger.
Non, parce que j'ai beaucoup aimé ça, moi, parce que la partie, justement, des ateliers, là, c'est... Tasha, elle a parlé peut-être 7-8 minutes.
C'est
après ça.
Ça,
c'est des interventions. Moi, j'ai intervenu pendant l'atelier. Ouais. Puis c'est vraiment... J'ai trouvé ça très bien. Je sais pas comment ça se passait dans les autres, là, mais c'était vraiment bien.
Moi, je pense
bien,
que c'est la même chose. Ouais.
Puis moi, j'ai été longtemps... mes événements politiques, depuis 2005, c'était les congrès ou les conseils généraux de la DQ. C'est des cadres qui sont assez rigides. Il y a les plénières, il y a les ateliers, il y a les
ouais,
votes.
Le formatage est important.
Il faut sortir de là avec des propositions qui vont être adoptées par le parti, ainsi de suite. Et puis, c'était intéressant. Moi, j'avais beaucoup de plaisir à faire ça. Mais quand je regarde ça, à comparer de ce que nous, on a fait, et puis ce que le Manning Center font en général avec leur networking conference, le plaisir est totalement différent. Mm. On s'assit, on découvre des gens, on interagit avec des gens hyper intéressants. Et puis...
C'est pas obligé d'être d'accord, là.
Non,
pas de ligne
non.
de parti, là.
Effectivement. Il y a plusieurs personnes, même à de droite, ils nous disaient qu'ils étaient totalement contre la première fois qu'on invite Jacques Brassard, Rénal Duberger à parler de climato-scepticisme. Mais en bout de ligne, on a mis ça sous forme d'atelier. Donc, les gens avaient le choix de trois ateliers, qui étaient celui d'Éric Duhem avec la RRQ, Monsieur Brassard avec le climato-scepticisme et puis Tasha qui parlait un peu plus du mouvement conservateur. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tout le monde y trouvait son compte. Il y a des gens qui aiment le sujet du climato-scepticisme. Il y en a d'autres qui aimaient le sujet du RRQ, ils choisissaient ça. Et puis en bout de ligne, il y a personne qui est ressorti que « Ah, j'ai non. pas aimé ça ». Parce que tout le monde a été chercher son compte dans ce qu'il voulait.
Mmh. Et puis étonnamment, tout le monde était dans les salles. Toi puis moi, on en a vécu des conseils généraux, des congrès. Puis dans les partis politiques, souvent ça se passe à l'extérieur de la salle, dans les corridors. Mais moi, à un moment donné, je me suis promenée parce que je passais d'une salle à l'autre pour voir comment ça allait. Il y avait personne dans les corridors.
Non, c'était...
Il y avait des gens même debout dans les salles qui étaient trop petites. Mmh. Écoute, c'était fascinant de voir ça. Les gens étaient vraiment intéressés. C'est la crème de la crème de gens qui sont intéressés à la politique aussi. Là,
c'est vrai ce que tu dis, parce que moi, j'étais en 2009, en août 2009, j'étais à Trois-Rivières, puis il y avait un conseil du PQ.
Mm-hmm.
Et c'était incroyable, le jasage qui se faisait dans les corridors. Là.
Ah, tout se passe là.
Il y avait Jean Lapierre qui était toujours à l'extérieur.
Oui, mon Dieu, oui.
Et tous les PQs venaient jaser avec lui. Là, je ne sais pas s'il y avait des espèces d'échanges de scoops ou quelque chose comme ça. Là. Mais c'était incroyable comment que ça grouillait à l'extérieur des salles.
Oui.
Moi, ce que j'ai découvert quand je militais justement en politique, c'était si tu veux te faire un nom, si tu veux avoir de l'influence dans le parti, reste pas dans la salle. c'était ça qu'un moment donné, j'ai appris peut-être aux alentours de 2007. Ça marche bien pour les partis politiques. C'est ça qu'ils ont besoin de faire, tout ça. Mais c'est là qu'on voit que le réseau Liberté Québec, c'est pas ça. C'est pas un parti politique.
En fait, c'est une expérience, hein. C'est une aventure, là. Nous, on fait ça, là. On se dit, on va se rendre à la prochaine élection. Mais faut vraiment prendre conscience que c'est que le réseau Liberté Québec, c'est à peu près la seule occasion qu'on a d'exprimer une voix collectivement, si on veut, quoi que j'aime pas ce mot-là, mais une voix de groupe pour faire pression sur des partis politiques. C'est la seule. Fait que, et ça compte. Des signaux comme ça, ça compte. C'est quand Gérard Deltel est sur le plancher puis qu'il entend, par exemple, un discours en avant puis qu'il voit les gens se lever debout puis applaudir, ça devrait sonner quelque chose dans sa tête.
Ou ça joue dans l'inconscient.
Oui.
Je veux pas. Puis moi,
oui.
Moi, j'aime voir.
Et c'est un instrument, excuse-moi, c'est un instrument pour eux de connaître, de se plugger, de se connecter sur une base quelconque. C'est très important. Ça n'existait pas. Là, ça existe. Puis, c'est une chance qu'on a. Je pense qu'on va se donner jusqu'à la fin 2012, en tout cas jusqu'à la prochaine élection pour vivre l'expérience. Après quoi, il y aura un autre gouvernement. Est-ce qu'il sera majoritaire? Est-ce qu'il sera minoritaire? Mais je pense que... Moi en tout cas, regarde, ça fait 7-8 ans que je réfléchis au modèle québécois. J'ai fait un film. J'ai été 7 ans membre de l'ADQ. J'ai milité. J'suis allée travailler au Parlement. J'ai fait le programme de 2007. J'ai conseillé Mario Dumont. Puis, en bout de ligne... Quand il n'y a pas de base, quand il n'y a pas de base électorale, puis quand ta base électorale a décidé qu'elle ne votait plus, il n'y a rien à faire.
Exact.
Fait que donc, l'exercice, c'est de mobiliser, de redonner confiance à ces gens-là, à nous, de nous redonner confiance, puis de faire un test. Moi, je vis ça comme un test. C'est un essai. C'est un essai. Okay. Puis on va voir ce que ça va donner à la prochaine élection. Ce que je souhaite, c'est que cette voix-là soit représentée au prochain Parlement, c'est sûr.
Puis, ce qu'on a fait aussi aux alentours du 23 octobre, avez-vous vu la quantité de sondages qui est sorti par après? Les Québécois sont-ils de gauche ou de droite?
Oui, effectivement.
Voir Agnès Maltais après ça répondre à des journalistes. Comment voyez-vous la montée
virage,
de la droite?
Il y a eu un virage.
Moi ouais. ça me fascine.
Ouais.
Parce que ce qu'on réussit à démontrer en gang, parce qu'il n'y a pas juste les gens sur le stage, il n'y a pas juste les porte-parole du réseau Liberté Québec. Quand vous vous déplacez en groupe à un événement comme ça, ce que vous faites là, si vous dites aux partis politiques, puis aux médias également, vous leur dites, hey, ce qu'on parle ici, là, c'est sexy comme sujet. Mmh. On veut en entendre parler.
Oui.
Parlez-en dans vos journaux. Parlez-en dans vos émissions de télé.
On veut en entendre parler. C'est tellement vrai. Puis tu me rappelles ça. C'est effectivement vrai. Il y a tellement eu de sondages par après. Puis là, on a l'impression qu'on se déconnecte un peu de l'axe souverainiste fédéraliste. Avec Legault, ça en rajoute. C'est parfait.
Mmh.
Mais puis là, on s'en va vers un axe gauche-droite. Mais ça, je vous jure, ça n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu 459 personnes le 23 octobre à Québec. Mmh. Je vous jure.
Mmh.
Fait que ne négligez pas, ce n'est pas un geste anodin que de s'inscrire, par exemple, au RLQ. C'est un bon pitch de vente quand même. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Alors, 20$ jusqu'à décembre 2012, c'est bon. C'est bon.
Vous promettez aucune hausse. Des coups d'adhésion.
Ah, ben non. Non.
Puis là, ça fait des petits. Il y a des locales qui sont en train de s'installer.
Oui.
J'ai vu ça dernièrement.
Effectivement, on en a deux qui ont décollé. On a eu des critères assez sévères pour approuver un RLQ local.
Comme quoi?
Ce qu'on demande, en gros, c'est que une personne qui voudrait en décoller un, il faut qu'elle trouve 10 membres du réseau, puis qu'elle laisse un numéro de membre, qu'elle les transmette.
OK.
C'est assez dur, quand même, comme règle. Sauf que ça nous permet de faire des belles découvertes. Les gens qui réussissent à remplir ce critère-là, c'est des gens qui sont motivés. Là, on a la RLQ Grand Montréal qui commence ses activités depuis une semaine, si je ne me trompe pas. Ils ont leur site Internet.
Il est très beau.
Ils ont manqué d'en faire un plus beau que le nôtre.
Ah oui, parce que vous...
Moi, je pense que ça se compare.
Oui, on va
lui
parler.
Là,
on va dire, regardez. Là, c'est bon. La concurrence, c'est bon. C'est bon. Ça, nous, on va améliorer le nôtre.
Exactement.
Parce que c'est ça, vous avez en plus, cette semaine, inauguré votre deuxième, la deuxième version de votre site Internet.
Effectivement.
Beaucoup plus complet.
Vous l'aimez?
Moi, je l'adore, oui. Je trouve qu'il est assez complet.
Ouais.
Puis d'ailleurs, je me suppliais, j'espère que c'est encore là. En tout cas, sur l'autre version, c'était là, on avait les états financiers. Vous êtes assez transparent.
Oui.
Parce que tantôt, tu disais, Yann...
Il y a même une chance que Joanne me retient des fois, parce que je mettrais tout, moi, sur...
Ah oui?
Je ne retiens pas.
Regarde! Oh, on est en train de dire que Joanne, c'est la germaine du RLQ.
Oh non, non, non.
Non, vraiment pas.
Non, c'est des fois, je pense qu'elle gère mes excès d'enthousiasme.
Okay.
On peut dire ça comme ça.
Non, c'est pas, attends un peu, je vais donner des éléments de contexte d'abord.
C'est ça.
Yann, c'est un actuaire. Il n'y a rien qu'on fait qu'il n'y a pas une statistique d'accrocher après.
OK?
Tout est calculé. Comme là, c'est une facilité inouïe pour lui de dire, bon, il y a 65 % des gens qui se sont inscrits qui sont de la région de Montréal.
Okay.
C'est dans ses gènes. Si tu as besoin d'une information, c'est lui qui t'appelle.
Mais on trouvait ça important d'être transparent parce que, tu sais, la gauche, des fois, c'est un peu ridicule. Ils ne sont pas capables de nous attaquer sur nos idées. Ils nous attaquent sur Éric Duhem ici, ou vous êtes associé à Jeff Filion, les gros méchants.
Mais c'est ça, je disais tantôt, les étiquettes. On essaie de vous coller des étiquettes.
Vous êtes financés par des groupes obscurs. C'est incroyable. Il y en a même des clowns qui disent qu'Éric Duhem, c'est un agent de la CIA. Sacrifice. Un mannequin, là.
J'avais une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui essaient d'infiltrer le réseau Liberté Québec?
Ben, il y en a eu. Je sais qu'il y avait des gens de gauche qui ont participé à l'événement.
À l'événement, oui, moi, en tout cas. Oui. Ben, oui, justement, quand Éric a fait son discours, il y a eu une personne, entre autres, qui s'est élevée. Puis...
Ah oui?
Mais moi, j'adore que ces gens-là soient là quand même.
Pas de problème.
Il faut avoir cette confrontation-là, mais je sentais que c'était. On cherchait à diminuer
c'est,
le.
C'est une belle analyse de société aussi à faire avec ça. Je veux dire, au Québec présentement, qu'est-ce qui ressemble un peu au réseau Liberté Québec, mais à gauche, disons, l'Institut du Nouveau Monde?
Mm-hmm. Ouais.
Est-ce que vous avez déjà été manifesté en avant de leur événement? Est-ce qu'on a fait ça? Est-ce qu'on a du temps à perdre à faire ça? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut relativiser les choses. Nous, on fait des conférences. Ouais. Que les gens essaient de nous infiltrer, ben. Ça fait plus d'argent d'un coffre.
On dirait qu'on a pas de problème avec ça. C'est ça, on dirait qu'on a un plus grand respect de la liberté d'expression que ces gens-là. Ils voudraient carrément que vous vous taisiez.
Qu'on se censure.
On l'a vu avec ce qui est arrivé avec Régent Parent, avec le blog Les Analystes. Tu dis, mon Dieu Seigneur, on est rendu loin dans la démonisation. Puis les termes qu'on utilise, là.
Mais en même temps,
mais ils sont tellement décrochés qu'ils réalisent même pas qu'ils se nuisent à eux-mêmes.
Mais c'est ça, moi, c'est ça que j'aime. C'est continuer à faire des niaiseries. Ça va ouvrir des yeux à d'autres qui vont dire, non, là, mes parents, ils sont dans le champ, là.
Il exagère.
C'est trop, c'est ça.
Mais la culture est tellement comme ça, qu'ils s'en rendent même pas compte. Mm-hmm. C'est comme quand tu regardes Radio-Canada, ils s'en rendent seulement pas compte qu'ils ont un biais.
Ouais.
C'est grave, ça.
Effectivement.
Donc, écoute, si ça peut aider à un moment donné rééquilibrer les choses, c'est parfait.
Tu peux donner un exemple de ce que Joanne vient de dire. Le lendemain de la tuerie de Toussaint, tout le monde se rappelle un peu.
Oui, c'est vrai.
Là, c'était de la faute de la droite, ainsi de suite. Puis là, je voyais Pierre Duchesne, qui est un journaliste que je respecte beaucoup chez Radio-Canada, qui reprenait des tweets. Lui, il relayait de l'information, donc il faisait rien de mal. Mais c'était tous des articles, tu sais, que c'est de la faute de la droite, que c'est le contrôle des armes à feu, ainsi de suite. Là, à un moment donné, je me dis, arrêtez de mettre du sang dans les mains des personnes honnêtes qui ont juste une idéologie différente de vous autres, puis tout ça. Puis il était totalement surpris que je lui réponde ça. Il comprenait,
il s'en était pas rendu compte.
Il comprenait pas de qu'est-ce qu'il faisait. Puis à un moment donné, je pense que c'est à nous autres aussi de s'affirmer. On est en 2011 aujourd'hui. On n'est plus, v'là 20 ans... Les gens, vous pouvez vous exprimer avec vos Facebook, mais avec vos les Twitter aussi. Vous pouvez envoyer des courriels à ces journalistes-là. Parce qu'il y a une chose qui est particulière de ces gens-là, c'est qu'ils vous lisent. Ils aiment le feedback, ces gens-là. Ils aiment ça, savoir qu'est-ce qu'ils valent.
Ouais.
Et puis des fois, je pense que quand vous prenez le temps de leur écrire un message qui est crédible, qui est bien écrit, qui dit « Hey, mon homme, t'es dans le champ, puis je vais t'expliquer pourquoi avec des bons arguments », vous l'échequez, ces personnes-là. Puis ça, c'est le pouvoir que les citoyens peuvent avoir aujourd'hui en 2011, qu'ils ne pouvaient pas avoir il y a 20 ans.
Effectivement.
Puis il y a 20 ans, c'est vrai que les journalistes, les médias contrôlaient tout. Je pense que ça s'en vient de moins en moins vrai. Il y a des réseaux qui se développent. Je pense que vous en êtes vraiment un bon exemple sur le réseau XM qui est un peu plus parallèle à ce qu'on est habitué en général.
Oui, mais même encore là, il y en a qui essaient de discréditer la radio satellite. On dit que c'est une radio anonyme.
Ils ont peur.
Ils ont peur, effectivement. Puis il y a déjà dans la région de Québec, sur la radio traditionnelle, des émissions qui ont adopté ce discours-là. Puis tranquillement, pas vite, on commence à voir que certaines stations établissent là, un marché précis par rapport à cette clientèle-là qui a souffert et puis qui aujourd'hui découvre par les moyens, les plateformes technologiques d'aujourd'hui. Maintenant, on a les moyens d'écouter une autre radio que celle qu'on avait dans notre région. Et ça, ça ouvre le monde et ça va obliger, je pense, les stations traditionnelles à offrir ce discours-là parce que ces gens-là vont en redemander. Et je pense que le réseau Liberté Québec, vous avez aussi adhéré rapidement à cette plateforme-là. Vous utilisez beaucoup la technologie d'aujourd'hui, le tweet, le Facebook. Ouais. Comment est-ce que vous appréciez justement cet apport-là technologique par rapport à un réseau Liberté Québec qui,
je pense que
il y a de cela 20 ans, on n'aurait pas eu ces moyens-là.
Je pense qu'on n'existerait pas.
Ça serait difficile, hein?
Ouais, voilà 20 ans, parce que... Ouais. Regardez le profil des gens qui sont au réseau, en général, ça c'est une grosse généralisation, là, ça, je comprends que c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais c'est des gens qui travaillent fort, des gens qui font du 9 à 5, des choses comme ça.
Ils sont plus jeunes en général.
Des gens plus jeunes aussi, les familles.
Ah ouais, c'est un constat ça que vous faites?
Oui, ils sont en bas. Moi, la moyenne doit être jeune quarantaine, je dirais.
Quand on observe ça, on se dit, ces gens-là, ils ont du pouvoir grâce à leurs réseaux sociaux. Nous autres, là, notre prime time, Réseau Liberté Québec, pour diffuser notre message, là, c'est 9h30-10h le soir. C'est pas le cas des médias plus à gauche et puis des organismes plus à gauche. Eux autres, leur prime time, c'est à 9h le matin quand que tout le monde se réveille puis de toute façon, ils font rien de leur journée. Je veux dire...
Bon.
Généralisation.
Ouais, m'amuse.
t'es pas un gars de statistiques, ça? Il doit avoir un chiffre, ça?
Non, mais c'est parce qu'il faut pas juste être logique. À un moment donné, on peut s'amuser un peu. Puis, d'un coup qu'on comprend ça, on se rend compte que ça, on peut rejoindre notre monde, puis c'est aussi qu'il n'y a aucun filtre. Puis ça vaut de l'art. De pouvoir parler directement à nos gens, les motiver, c'est incroyable.
En fait, la web radio, elle est à la presse traditionnelle, sauf que les blogs sont à la presse écrite d'aujourd'hui.
Effectivement.
Ça va être la même chose. Puis comme la presse écrite, on le sait, elle se sent menacée, c'est sûr que la radio traditionnelle se sent menacée aussi. Ouais, parce que c'est tellement ciblé comme clientèle, tu vas toucher vraiment la personne qui s'intéresse à ton propos. C'est extraordinaire. Ça vaut de l'or, ça, en marketing. Hein?
Oui, puis je pense que vous avez bien exploité ça, même à la journée du 23 octobre. Oui. Justement, Yann, dans ton discours, tu as fait le mention pour ceux qui ont un Twitter, puis qui comprendront pas, mais puis effectivement, j'avais un regret parce que le prochain coup, je vais être là avec mon iPad, c'est sûr, pour suivre les tweets en direct parce qu'il s'écrit beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de bons commentaires, puis ça continue aussi. Là, on est toujours sur la même lancée. Là.
Ironiquement, souvent sur Twitter ou Facebook, je publie beaucoup de choses là-dessus. Mais moi, la journée du 23 octobre, il n'était pas question que je touche à ça. J'étais avec du monde. J'ai apprécié l'expérience. Puis le Blackberry est resté bien profond dans ma poche de veston.
Cette journée-là, c'était vraiment la fête.
Il y a peut-être Eric qui a eu la difficulté peut-être à se retenir.
Il a fait une coupe de tweet. C'est une extension de son corps.
Oui, c'est ça.
Mais il répondait à des journalistes, lui, pendant la journée.
J'ai même pas eu conscience.
Juste une affaire. Lors du 23 octobre, il y avait aussi un congrès du PQ.
Oui,
il y avait un conseil du président.
Oui, quelque chose comme ça, parce que je sais que Pierre Duchesne est venu le matin.
Oui.
Au RLQ, il est allé l'après-midi ou le soir à ça, et c'est lui qui a fait les reportages à Radio-Canada le soir.
Oui.
Avez-vous senti une espèce de différence dans le traitement médiatique entre... Parce que dans le même reportage, il parlait en direct, dans le fond.
Oui.
Et dans le même reportage, il parlait du
RLQ. On était extrêmement satisfaits de la couverture médiatique la dernière fois. On avait l'équipe A de Radio-Canada, on avait des gens de TVA.
Êtes-vous surpris d'avoir cette...
Surprenant,
ce niveau d'attention-là.
Heureux.
Oui, heureux.
Heureux. On ne voulait pas se créer d'attente, mais on était heureux de voir qu'ils étaient là. J'en avais fait mention dans le mot d'intro et on était vraiment contents. La presse écrite aussi était là. On avait une superbe belle page dans la presse, un article plein de pages de Pas Journée dans le cahier.
Le lendemain, le soleil, je pense qu'il y avait 5 articles dans le journal.
Regarde, ça a été un événement parfait. Fait que là, on va essayer de reproduire ça le 16 avril. Fait que aux gens qui écoutent, allez vous inscrire. Ça nous encourage, nous autres aussi, à avoir monté le chiffre. Puis c'est vraiment pas négligeable.
Puis pour s'inscrire, on pourrait donner l'adresse. Parce que
liberté-québec.ca, tout simplement. Ou vous faites une recherche Google.
Oui, Réseau Liberté-Québec, RLQ.
C'est ça. Juste pour venir, c'est ça. C'est-tu un hasard qu'encore le 16 avril, c'est en même temps qu'un congrès du PQ?
Non, c'est pas un hasard.
C'est pas un hasard? C'est carrément volontaire?
Ouais. Ben oui, c'est dans la mesure du possible, oui.
À vrai dire, c'est qu'au début, on avait spoté vraiment cette date-là. Puis là, quand on a su que le PQ est en même temps. On est plus parti à rire que commencer à songer de changer de date. On a dit, hey, c'est sûr qu'on laisse ça là. On ne bouge plus, on a choisi notre date. Okay. Parce que de toute façon, on n'a pas de gêne. Ils ne font pas partie de notre clientèle cible tant que ça. Mm-hmm. On s'adresse à une partie des péquistes. S'il en reste, sérieusement, ça doit être les plus courageux qu'il n'y a pas dans le monde politique.
C'est
là.
Vrai.
Le monde à droite au Parti c'est québécois, vrai. C'est quoi ouais. vous faites? J'en reviens ouais, pas. Vous êtes, ouais. vous êtes tough. Vous êtes
il
vraiment
s'obstine,
tough.
Il s'obstine. Hein. Ouais. Je dis qu'il. Ah non, écoute, il persévère. Mais non, c'est ça. L'objectif de la journée, comme Yann dit, c'est vraiment de se réseauter, de s'amuser. Puis, mais cette fin de semaine-là en particulier, ça va être d'offrir un contraste entre un vieux discours axé sur le débat souverainiste fédéraliste, axé sur le débat sur la langue, axé sur la perte de droits individuels qui est notamment de pouvoir envoyer ou de pouvoir accéder à un cégep en anglais. Ils vont parler de la langue là-bas. Mm-hmm. Puis nous autres, chez nous, ben on parlera de prospérité économique, puis on parlera de ce qui se passe à l'extérieur du Québec. Puis on parlera de, là, je peux pas vous le dire, mais tu sais, on parlera de choses qui vont nous propulser vers l'avenir, mm-hmm. et puis qui vont s'assurer qu'on va pouvoir exploiter tout le potentiel puis le talent des Québécois. Là.
Et comme on a dit, ben pour ceux qui sont dans la région de Québec, il y a des facilités, des autobus. Puis la grande région de Montréal aussi, c'est le temps de profiter de l'occasion.
Bien sûr.
Parce que peut-être dans les plans, encore d'autres événements à venir qui vont suivre. Mais là, pour l'instant, j'imagine vos priorités sur l'événement du 16.
Oui, c'est ça.
Notre équipe du réseau Liberté Québec, on focus vraiment sur l'organisation de ce type d'événement-là. Oui. Mais quand je regarde une section locale comme RLQ Montréal qui veut prendre l'expansion, qui veut faire ses propres événements, qui va organiser des 5 à 7. RLQ Saguenay, même chose, aux alentours du 22-23 février, je pense qu'ils veulent organiser un 5 à 7. Je me dis, à un moment donné, ça va se développer, ce réseau-là.
Oui.
Il n'y aura pas juste nous autres, ça ne dépendra pas juste de nous autres. Il va y avoir plein de gens qui vont faire leur bout de chemin là-dedans. Puis, en bout de ligne, là, on va se mettre à avoir du plaisir. Puis ça, oui. on va devenir fiers de ce qu'on est. Mm. Je pense qu'on est fiers, mais on le garde pour nous autres. Puis là, on va faut que s'afficher plus, faut s'affirmer plus, chacun dans notre coin. Puis
quand on voit un mouvement de masse comme ça, veut pas ça.
Oui, puis je dirais ceux qui ont.
Le succès attire le succès.
Oui. Puis ceux qui ont un petit intérêt, là, si vous en avez une, même si elle est minime, ça vaut la peine de prendre là, les jambes à son cou et d'aller vraiment.
Oui, puis n'ayez pas peur.
Non, c'est.
N'ayez pas peur.
Il n'y a pas de jugement.
Je parlais de sécurité, mais écoute, en fait, je veux dire, c'est un non-sujet, là. Et il faut, je pense qu'en bon démocrate, il faut pouvoir évaluer l'offre politique à gauche comme à droite, puis ça va être une belle occasion pour le faire.
Mm-hmm. Avant que vous partiez, quand vous avez fondé le mouvement, le réseau Liberté Québec, en septembre, au début d'octobre, il y avait une annonce concernant un futur parti politique ou un autre mouvement, Force Québec.
Mm-hmm.
Et là, encore aujourd'hui, à l'approche de votre événement, on revient encore un peu avec ça. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est un nuage, c'est quelque chose qui se répète par rapport à cette optique-là ou cette option de droite? Parce que là, longtemps, on a fait des discours, je dirais, un peu favorable à l'avancement d'un nouveau parti de droite, là, et puis on s'attendait à ce que François Legault soit le pilote. Est-ce que pour vous, ça a été des comparaisons qui ont nui ou qui aujourd'hui, non, au contraire, avec les résultats?
Je pense que ça fait juste révéler que et ça bouge au Québec, qu'il y a un vide, qu'il y a des gens qui veulent partir autre chose, que ce soit à l'intérieur de réseaux de citoyens. Dans son cas, à lui, c'est une tentative évidente de vouloir partir un nouveau parti politique, fait qu'il va essayer de commencer par un mouvement puis on verra ce que ça donne. Mais je suis contente aujourd'hui parce que là il a finalement annoncé que lundi il allait rencontrer le monde.
Mm-hmm.
OK, il allait se présenter. Ça lui a pris 6 mois avant d'arriver avec quelque chose. Il a dû négocier serré avec certaines personnes dans son entourage. Il a perdu des gens en qui il avait confiance puis sur qui il comptait en cours de route, des gros noms, mais il y a eu Québécois pour l'appuyer pendant ces 6 mois-là, puis Robert Plouffe, puis Jean Lapierre, puis c'est qui dont l'autre, Monsieur Larocque, pour spinner d'aplomb.
Oui, c'est ça.
Oui, il y a eu de la belle aide. Bref, lundi, on va savoir qu'est-ce qu'il y en est, tant mieux, parce qu'à ce moment-là, les Québécois vont pouvoir juger sur quelque chose de concret, là, parce que pour l'instant, ce n'est que du spin.
C'est ça qui me renverse.
Là.
Parce qu'on a eu l'impression qu'on détournait le mouvement de droite vers ce nouveau parti-là qui était.
C'est ça, on aurait dit qu'il voulait diluer ce que vous étiez en train de faire.
Je pense pas qu'il y avait ça comme intention. Non, je pense tout
les
simplement.
Médias, je parle.
Oh, les médias, les médias, oui. Ouais. Ah oui, de toute évidence.
C'est ça, pas le go, mais les médias.
De toute évidence, de toute évidence. Je pense qu'on a eu, étonnamment, on a eu une meilleure couverture des gens de la presse. La presse de Jessica que de Québécois dans ce cas-ci. Peut-être aussi parce que les gens Québécois, ils ont suffisamment de chroniqueurs qui sont de droite ou en tout cas de centre-droite que là, ils se sont dit, écoute, on en fait assez, tu sais. On en fait assez puis ils n'ont pas besoin de nous autres. Puis effectivement, on n'a pas eu besoin de nous autres. De deux autres, à la fin de l'événement, on s'est dit, ben tant mieux, coudonc. Si
parce que moi, mon appréhension, c'est que ce faux... En tout cas, on verra là sous quelle forme ça va prendre, mais on a l'impression des fois qu'ils veulent aspirer là, ce mouvement-là, profiter ou maximiser.
Oui, puis non.
Puis d'attirer les gens qui pourraient être tentés de peut-être passer au plan A.
Pour ces gens-là, on est des infréquentables.
Non, c'est ça.
Ils veulent pas être associés à nous autres.
Je pense vraiment pas. Okay. Je pense qu'ils jouent dans une autre cour, puis la cour, c'est celle de la social-démocratie traditionnelle, celle du Parti québécois. C'est ça, je pense que c'est celle aussi qui des clientèles qui veulent être rassurées. Puis tu sais, quand t'hésites par exemple à utiliser les bons mots pour les bonnes choses, il y a quelque chose où vraiment quand tu marches sur des œufs, quand t'es pas capable de nommer les choses, il y a quelque chose de suspect là-dedans. C'est de la pure politique là.
Je pense
même pas qu'ils sont intéressés. D'ailleurs, ils sont pas, ils sont pas venus.
Exact.
Fait que c'est pas. Et les gens qui pourraient être intéressés ou qui sont attirés ou fascinés ou qui savent vraiment intuitivement qu'inévitablement on devra y arriver à des réformes majeures. OK, parce que c'est plus des changements esthétiques dont on a besoin là. C'est plus du patchage à ce que j'ai lu selon ce que j'ai lu aujourd'hui là. C'est pas, je veux dire, c'est des fondations du modèle québécois qu'il faut faire sauter, je m'excuse, mais il faut les faire sauter. Puis vous les connaissez, les fondations du modèle québécois là, je peux vous les redire là deux secondes là. Des monopoles d'État, un code du travail qui est à l'avantage des syndicats. Des programmes sociaux mur à mur au lieu d'être ciblés. C'est bâti sur des chaînes de Ponzi, le modèle québécois. Vous savez, la régie des rentes, les coûts de santé, la dette, puis finalement, un système de santé qui est inefficace, injuste, bloqué. Puis là, on a de la misère à définir le rôle de l'État, puis le panier de services que doit financer l'État. On est incapable au Québec de dire c'est quoi le rôle de l'État, où l'État doit intervenir, puis où il ne doit pas, c'est complètement bousillé. Fait que tant que un parti, puis ça prendrait deux pages, hein, arriver avec ces principes-là, là. Moi, j'en veux pas 8, j'en veux pas 100 pages. Je veux savoir où est-ce qu'il va, où est-ce qu'elle s'en va, ce leader-là. Puis, dans les articles que j'ai lus aujourd'hui, je m'excuse, mais c'est de la social-démocratie traditionnelle, c'est du patchage, c'est d'augmenter des tarifs pour mieux payer une autre gang. Tu sais, c'est ça, dans le fond, qu'on lit dans les articles. J'espère pour lui qu'il va avoir l'audace de nommer les choses, de nommer les choses lundi. Je ne le pense pas.
Non, je pense pas.
Je ne le pense pas. Mais en tout cas, on saura se faire une idée par après là. Mais tu sais, c'est typiquement un programme de gauche efficace là, ce que je lis là. Tu ne peux pas avoir tu peux pas être sérieux pour diminuer la dette si tu augmentes les tarifs pour mieux payer les enseignants. Je m'excuse.
Non, effectivement.
Je dis, tu augmentes la colonne des dépenses, tu augmentes les revenus, mais c'est pour augmenter la colonne des dépenses. Mais là, comment est-ce que tu fais pour dégager une marge de manœuvre?
Donc, ça se trouve être le budget 2010-2011 de l'an passé, là. Ce qu'il offre. On augmente les tarifs, on augmente la contribution.
C'est de la continuité.
C'est ça.
Donc, définitivement que Force Québec n'est pas une extension du réseau Liberté Québec dans l'idéologie politique. Là.
Je ne le croirais pas. Mais regarde, on va attendre lundi. Mais
les indicateurs sont... OK. Non, mais je voulais simplement le mentionner parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont associé effectivement les sondages là, qui ont donné certains résultats, puis un mouvement de la droite. Puis
mais tu sais, si pour le réseau Liberté Québec, c'est de l'extrême droite, c'est normal qu'ils considèrent François Legault comme un gars de droite.
C'est ça.
Je suis content que vous voyez Robert Plouffe de la même manière que moi.
Ah oui?
C'est le premier à avoir été voir le supposé chalet de Pauline Marois. T'sais, c'est lui qui a eu le scoop, qui est allé le visiter avec elle. J'ai toujours pensé qu'il aimait beaucoup Mme Marois et le PQ, donc je suis content de voir que vous êtes...
Vous n'êtes pas le seul à dire ça.
Surveillez ça dans les prochaines semaines, les auditeurs, si vous ne l'avez pas remarqué. Là. Regardez les dossiers que Robert Plouffe touche. Vous allez voir, il y a toujours un lien.
Il faut être extrêmement vigilant de l'information qu'on nous présente.
Exact. Merci beaucoup de votre visite.
Ça fait plaisir.
On vous souhaite évidemment le meilleur événement possible, puis je suis sûr qu'on va en entendre parler avant et après. Donc, vous allez divulguer au cours des prochaines semaines la suite des panélistes.
C'est quand l'annonce des prochains panélistes?
Le 1er mars.
Le 1er mars, on
va annoncer le panel avec les quatre panélistes, okay. Trois ou quatre panélistes.
Donc, c'est le 1er mars que là... vous annoncez Denise Bombardier, c'est ça?
Oh non, c'est... non, mais il n'y est pas. Mais ça serait vraiment une bonne idée, mais je peux dire non à ça. Ouais, okay. Ça serait vraiment une bonne idée.
Je vais réessayer.
Donc, on invite les gens à s'inscrire au liberté-québec.ca. Voilà. Donc, merci beaucoup.
Merci.
Et la semaine prochaine, Dany, encore une bonne émission. Beaucoup de...
plein d'invités.
Oui, beaucoup d'invités. Mm. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Et sur ce, ben, on vous souhaite bonne écoute sur les ondes du XM 172.